Bonsoir. Bienvenue dans ce groupe de partage du lundi 11 juin 2012. Bienvenue aussi à tous les frères et sœurs qui en ce moment écoutent avec nous et qui font que le groupe est bien plus grand qu'il n'y paraît. J'avais commencé par un son de cloche pour nous inviter à juste partager une présence avant d'entrer dans la matière. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Merci. Alors, je vais présenter ce groupe de partage sur la non-dualité, autour de l'unité, autour de notre nature profonde, autour de la vérité, avec un grand V, autour de la réalité. En quelques phrases, je donnerai quelques directions. Et ensuite, nous nous sentirons libres de partager sur n'importe quel sujet, y compris des situations de la vie quotidienne qui semblent parfois difficiles ou joyeuses, peu importe, pour faire le point avec ce qui nous relie à ce qui est éternel, à ce qui est notre vraie nature, malgré ce monde qui est dans l'impermanence, hein, qui un jour cessera d'être, malgré notre corps, qui un jour cessera d'exister. Il y a cette intuition profonde que quelque chose de vaste est intemporel et éternel et intelligent, une vie qui ne commence ni ne finit, qui est une avec toute l'existence et qui n'a pas de, qui est hors du temps. Voilà, cette intuition-là, nous la partageons lors de ces soirées pour nous reconnecter à notre esprit, celui qui nous dirige, hein, lorsque nous l'écoutons, lorsque nous prêtons attention à sa guidance. Alors justement, dans ces soirées, il n'y a pas de boss, il n'y a pas d'animateur, hein. Moi, mon rôle, c'est d'organiser le cadre pour que ça se passe, d'introduire un petit peu de théorie, un tout petit peu de direction, et puis ensuite de laisser faire ce qui doit se faire. Et je m'inspire beaucoup pour faire ça de 5 phrases qui apparaissent à la page 30 d'Un cours en miracle, qui sont d'une aide considérable pour moi dans ma vie, et qui maintenant sont presque auto-prononcés dans les situations où je me mets au service. Hein, je ne cherche pas à contrôler les choses, ni les gens, ni les situations. Et ces 5 phrases disent simplement ceci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Voilà, et puis je sens aussi de lire le titre de la leçon 221 que j'ai tiré dans le petit panier tout à l'heure, et que j'accepte de me laisser inspirer ce soir, hein, pour être dans ce groupe avec vous. Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Il y a beaucoup de choses à dire avec ces 2 petites phrases, hein, déjà pour moi. À partir de la paix et à partir du calme, je peux agir avec beaucoup plus d'amour qu'à partir de l'agitation, de l'énervement ou du stress. Donc, pour que mes pensées soient calmes, je me pose, je fais une pause. Une pause de tout, tout ce qui peut m'agiter. C'est comme vous jetez un caillou dans un étang, la surface est agitée, vous attendez 10 minutes, ça se calme. Notre ego et notre esprit, notre conscience, c'est comme un étang dans lequel nous jetons des cailloux. Parfois ça fait des grosses vagues, parfois des petites, mais avec suffisamment de patience, d'observation, le calme revient. Et à partir du calme, je peux prendre généralement des décisions qui sont justes pour moi. C'est pour ça que cette leçon est très parlante pour moi, parce qu'avec le calme vient la paix, et de la paix, il n'y a pas de décision agitée, forcément, c'est évident. De la paix, je prends des décisions paisibles. Parfois, ça met du temps à ce que la paix s'installe, parce que même si je veux être en paix, mon ego jette quand même des petits cailloux en me disant « Hey, rappelle-toi ce qui t'a fait, tu vas pas te laisser faire, non ? Vas-y !» Donc oui, je contrôle le jeteur de pierre en même temps. Je l'invite aussi à entrer dans la méditation avec moi, dans le calme avec moi. C'est comme un enfant qui s'agite, c'est comme un tyran qui veut prendre le contrôle, qui veut faire la révolution en moi. Mais moi, pour entrer dans mon espace de paix, de tranquillité, j'ai aussi à dire au tyran ou à l'enfant capricieux du calme. Tout va bien se passer. Parce que cet enfant ou cet être qui apparemment s'agite et à partir d'une blessure ou d'un sentiment d'insécurité, cet être... aussi a besoin d'être aimé, a besoin de mon affection, a besoin de se tranquilliser, a besoin d'être réintégré dans ma paix. Et donc je peux avoir une relation comme parent-enfant avec mon ego, qui est cette partie de mon esprit qui se croit séparée de tout, de Dieu, de l'univers, de l'existence, et qui croit que chaque personne... chaque situation est une menace, parce que c'est une partie de mon esprit qui se croit séparée de la création, de la vérité. Donc ça, c'est une direction majeure de ce que nous pouvons partager ce soir. Il y a un monde que nous croyons séparé, qui est souvent le monde de la manifestation de l'ego, celui qui jette des cailloux dans l'étang calme de ma conscience. Et la méditation, ça peut se résumer à contrôler le nombre de cailloux qui sont jetés, ou faire grandir l'espace blanc, vide, entre deux cailloux qui sont jetés, qui peuvent être dépensés simplement. C'est une expression de Yeshua, chaque pensée est un caillou que vous jetez dans les temps calmes de votre conscience. C'est intéressant de le voir comme ça. Pourquoi ? Parce que chaque caillou fait des vagues, et au-delà des vagues qui arrivent à ma propre conscience, il y a des vagues qui se propagent et qui touchent les êtres qui sont avec moi autour de l'étang, ou qui partagent une conscience collective, ou même une inconscience, un inconscient collectif. Voilà, j'ai cité le mot Dieu dans mon introduction, et cependant, je crois utile de dire que ce n'est pas un mot qui a une connotation dogmatique, et sentez-vous libre de le remplacer par n'importe quel mot qui suggère la non-dualité, l'idée que nous sommes un et que tout est un et que nous sommes à l'intérieur de ce un-là, même si nous nous croyons séparés de l'unité. Donc nous pouvons dire l'existence, nous pouvons dire l'univers, nous pouvons dire mon soi supérieur, la nature, voilà. Il y a plein de synonymes si pour toi qui entends le mot Dieu est connoté. où tu as du jugement, où ça évoque une image qui est différente de cette non-dualité-là. Et une des leçons de Un cours en miracle dit « Il y a une seule vie et je la partage avec Dieu ». Et donc, dans la non-dualité, il y a Dieu et rien d'autre. Il n'y a que Dieu. Et ça se résume en simplement deux mots que Jésus disait il y a 2000 ans et que depuis, il nous répète aussi dans les enseignements, comme Un cours en miracle et d'autres enseignements non-duels que nous citons de temps en temps. Il dit que toute vérité peut être résumée en seulement deux mots, et ces mots, c'est « Dieu est ». Voilà. C'est quand même puissant, hein, que toute vérité puisse se dire en seulement deux mots. Alors, Dieu est, ça veut dire aussi que Dieu est tout ce qui est. Il n'y a rien à part Dieu. Si vous voyez le petit carré qui est à côté de la porte des WC, c'est une phrase en hébreu qui est écrite en de façon circulaire avec des couleurs genre arc-en-ciel, qui est tirée de la Kabbale, que j'ai ramené de mon voyage en Israël récent, là. Et en hébreu, ça dit « En od milvado ». Ça veut dire « À part lui, il n'y a rien ». Et lui, c'est avec un L majuscule. Donc c'est totalement non-duel. Et puis, la forme circulaire, pour moi, évoque bien que c'est ça commence et ça finit en lui aussi. Voilà, donc c'est le sujet ce soir. Il n'y a que Dieu, je suis dans cette unité, je suis aussi un être divin, mais un être divin qui a voulu jouer à une sorte de blague cosmique qu'on appelle l'illusion, qu'on appelle le monde que nous voyons, qu'on appelle la planète Terre, qu'on appelle l'univers de matière, l'univers visible, qui comprend le temps, qui comprend l'espace, qui comprend des situations, des états émotionnels, et qui contient surtout des émotions ou des états qui sont apparemment séparés de l'amour, qui sont autre chose que de l'amour. Alors, cette blague cosmique, comme je l'appelle, c'est notre vie terrestre. Et pourquoi nous voyons en priorité cette vie terrestre et pas l'être divin que nous sommes? Eh bien, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est parce que nous l'avons choisi. Pour certains, c'est un choix dont ils ne se rappellent absolument pas, pour la plupart d'ailleurs, de ceux qui ont accepté de jouer ce jeu, il y a eu une composante d'oubli qui était indispensable pour que cette blague puisse être prise au sérieux, pour que ce théâtre cosmique puisse avoir l'air d'être vrai. Donc nous avons posé simplement en esprit la question, que se passerait-il si les choses n'étaient pas ce qu'elles sont? C'est-à-dire si nous n'étions pas divins, si nous n'étions pas un avec Dieu, si nous étions hors de l'amour, alors qu'il n'y a que Dieu et il n'y a que l'amour, et en dehors de ça, il n'y a rien, comme si on pouvait s'imaginer une sphère, mais solide, fait du matériau le plus indestructible qui soit. Et en dehors de cette sphère, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a même pas du vide. Il n'y a rien d'autre. C'est une comparaison assez maladroite, parce que cette sphère serait faite de matière, alors que... Mais c'est comme ça que je le présente de temps en temps. Impossible d'imaginer quelque chose en dehors de cette sphère-là. Et cette sphère, c'est Dieu, c'est l'existence, et nous sommes forcément dedans. Alors, comment faire pour sortir de l'amour comme un poisson sortirait de l'eau, comme nous ne pouvons pas être en dehors de l'amour parce qu'il n'y a que Dieu et rien d'autre, et c'est pas possible d'être en dehors de la sphère, nous sommes dedans, alors nous avons rêvé de non-amour. Nous avons... tout se passe comme si ce n'est qu'une image. Nous nous étions assoupis de notre nature divine et nous avions imaginé un monde de limites, un monde où l'opposé de la de l'amour existe sous forme de peur, d'angoisse, de stress, de, etc. Où l'ego existe, le sentiment de, d'être séparé, divisé les uns des autres, où les choses sont impermanentes, commencent, s'étendent, et ensuite meurent ou disparaissent. Voilà, nous avons imaginé ça dans un but bien précis, hein, pour fabriquer des notions, hein, qui n'existent pas dans l'unité, pour voir, faire l'expérience de la dualité alors qu'elle ne peut pas exister dans le un que Dieu représente, afin d'apprendre quelque chose. Hein, c'est toujours dans un but didactique, hein, que c'est fait. Donc ce soir aussi, hein, nous apprenons à partir de la dualité, nous partons de ce que nous connaissons, puisque nous naissons apparemment dans ce monde, nous mourons aussi apparemment dans ce monde, nous vivons des tas d'expériences dans ce monde, et donc c'est apparemment ce monde que nous connaissons le mieux, hein, le monde séparé. Et donc, ce soir, nous prenons ce monde séparé comme tremplin à partir de nos expériences, à partir de l'espace où il se passe des choses qui apparemment sortent de l'espace et du temps, où parfois des miracles se produisent et nous donnent l'intuition que autre chose que ce monde doit exister, hein, il doit bien y avoir une autre voie. Comme disait celle qui a reçu, ou celui, c'était un couple de personnes qui ont collaboré à l'écriture d'un cours en miracle. Hein. Il disait à l'origine, il doit bien y avoir une autre voie que ce monde où il y a toujours des conflits, ou que ces réunions où chacun essaye d'avoir raison et de l'emporter sur l'autre, d'avoir le dernier mot. Donc nous faisons en apparence le chemin inverse, c'est-à-dire que nous partons de ce que nous connaissons le mieux et nous tentons de remonter le fil jusqu'à la non-dualité, jusqu'à l'unité, en nous servant de notre espace que nous pressentons plus vaste que notre corps, de notre conscience, de notre espace d'intuition, de nos guidances, de l'espace qui n'est pas cérébral, de l'espace du cœur, qui nous amène à expérimenter parfois des états de conscience très vastes et qui sortent de notre réalité quotidienne, qui nous font expérimenter une autre voie, justement, que celle du monde séparé. Donc, bienvenue à ce chemin-là, à parcourir ce chemin ensemble, à nous aider les uns les autres, à nous donner des petits indices les uns les autres pour nous rappeler ce secret extrêmement bien gardé, protégé par ce voile de séparation qui est en train de apparemment se lever de plus en plus avec cette période qu'on appelle l'apocalypse, la levée du voile, dans laquelle le temps paraît s'accélérer, dans laquelle le souvenir de la vérité revient à de plus en plus d'humains sur Terre, et pas seulement d'humains, dans laquelle nous sommes de plus en plus accompagnés par l'invisible, par des guidances, des canalisations, des êtres de lumière, y compris des messages extraterrestres qui arrivent, chacun selon ses croyances et avec ce qui l'aide, lui ou elle. Voilà. Donc ce soir, que ce soit une situation sordide ou une situation ordinaire, hein, je fais la queue au supermarché et tout d'un coup il m'arrive quelque chose. On me marche sur le pied, sur l'orteil droit. Et est-ce que je m'énerve ou est-ce que je me dis, il ne s'est rien passé, tout va bien, tout va bien. Est-ce que je pardonne ou est-ce que je me mets en colère? Est-ce que j'ai un bâton de dynamite en moi qui n'attend que l'étincelle pour exploser? Ou est-ce que je suis enclin à laisser mes pensées d'attaque se calmer? Voilà. Donc on peut partager sur absolument tout, ça peut être court ou long, ça n'a aucune importance. Et puis chacun de nous qui se sent guidé à éclairer ou à apporter son témoignage en tant que connecté à la source d'amour que représente l'unité, bien sûr peut intervenir à tout moment pour le faire. N'hésitez pas. Voilà. J'ai parlé.
Je reprends ton exemple du supermarché où on te marche sur le pied. Et il y a une notion qui est absolument fondamentale, qui revient en courant miracle et dans, on va dire, tous les enseignements non-duels. Et quand on dit enseignement, on va dire les partages non-duels, on pourrait dire. Parce qu'en fait, on n'a rien à enseigner à personne. Disons qu'il y a un énoncé de quelque chose. Et cette notion fondamentale, c'est... Je suis responsable, entièrement, totalement, de tout ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire que, on marche sur le pied à la caisse du supermarché, c'est moi qui crée l'expérience. C'est une notion énorme, hein, c'est une notion énorme. Et c'est moi qui crée l'expérience, et celui qui marche sur les pieds, il crée aussi l'expérience avec moi. Parce qu'on est un. Donc c'est un jeu de dans une relation, donc il y a partiment où il y a apparemment deux, il y a lui et moi, ou elle et moi. Et le jeu est parfaitement joué. Entre deux, entre trois, entre quatre, entre cinq, et c'est comme ça pour les 7 milliards que nous sommes. On peut même dire que c'est comme ça pour tous les êtres de l'univers. C'est-à-dire que le jeu est joué par qui nous sommes vraiment. Et donc quand je dis « je suis entièrement responsable de tout ce qui se passe dans ma vie », ça ne veut pas dire que le petit personnage qui s'est amusé à s'identifier à un corps physique précis, il est conscient de ça. D'ailleurs, il n'y a pas de petit personnage. Il n'y en a pas. Hein. Il n'y a pas d'individualité. Il y a une apparence, il y a une identification à un personnage particulier. Et donc, sur cette planète, il y a 7 milliards d'identifications à des petits personnages différents. Par qui est faite cette identification? Par qui je suis? Par la vie? Par Dieu? Par l'esprit un, tout ça c'est des mots, et donc effectivement ça n'a rien à voir avec l'apparence, strictement rien. C'est pour ça par exemple qu'un courant miracle dit dans sa courte introduction, ce cours peut très simplement se résumer de la manière suivante: rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe, en cela se trouve la paix de Dieu. Donc, rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. Donc les corps, les 7 milliards de corps, vont disparaître. Ils sont menacés, donc c'est pas réel. Un chat, un chien, un animal, une plante, tout ça, c'est temporaire. Donc tout ce qu'on peut percevoir, c'est une illusion, c'est quelque chose qui se termine. C'est quelque chose qui est fini. Or, ce qui est non menacé, réel, est infini. Et ça, c'est qui nous sommes. C'est la vie. C'est Dieu, c'est l'esprit, c'est l'esprit un, et il n'y en a pas deux, il y a ce qui est. Donc Dieu est, ou la vie est, ou je suis. Et donc, nous sommes dans une illusion, dans un, disons, un paradoxe incroyable, où tout ce qu'on peut percevoir n'est pas réel. Parce que c'est séparé. Et le principe de la perception, c'est que celui qui perçoit n'est pas ce qui est perçu. Et c'est pour ça que quand on s'est amusé à s'imaginer en dehors de qui nous sommes, ne pas être qui nous sommes, en dehors de la réalité, eh bien, on a inventé la perception. C'est-à-dire qu'on imagine quelque chose qui n'est pas nous. C'est-à-dire, c'est tout l'extérieur. Mais il n'y a pas d'extérieur, puisque Dieu est tout ce qui est, et que rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, donc ce qui est par extérieur est limité et va mourir tôt ou tard, c'est-à-dire va disparaître, y compris des étoiles. Hein. Ça met à peu près 5 milliards d'années à disparaître, une étoile à se former, à disparaître. Et tout, absolument tout, rien n'est permanent. Et pourtant, ce qui est permanent, ce qui existe, c'est ce qui est. Évidemment, c'est infini, et c'est forcément esprit. Ce ne peut pas être une forme particulière. Donc le jeu est fantastiquement bien joué, de manière extraordinaire. Par qui ? Par un seul esprit, par nous. Alors je reviens donc, j'ai commencé en disant que quand tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est moi qui l'ai créé, mais pas le petit moi, c'est moi et c'est mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'on va arriver à la conclusion et à l'observation que nous jouons tous des rôles parfaits les uns pour les autres. Qui joue ce rôle parfait ? Ce qui est. Et ce qui est, c'est quoi ? C'est l'amour, c'est la vie. Et le principe de l'amour, c'est pas « je t'aime toi plus que toi », non, le principe de l'amour, c'est « j'aime tout, je suis tout ». Donc, je suis réel, je suis infini, et on peut dire que dans cet état infini, éternel, donc dans un instant présent qui est éternel, puisqu'il n'y a pas de futur ni de passé, cet état, il y a une dynamique, on peut dire, c'est une façon de parler, et la dynamique, c'est de se donner. Donc, c'est de créer. Et qu'est-ce que je crée ? Eh bien, je me donne moi-même. C'est pour ça que le courant miracle insiste bien en disant, dans le monde divin, créer, ça veut dire s'étendre. Alors que dans le monde de l'ego, illusoire de la séparation, créer, c'est projeter à l'extérieur de soi. Par exemple, je suis boulanger, je crée des baguettes de pain ou des croissants, hein, ou je les fabrique en fait. Et donc, c'est pas moi, je prends de la farine et puis voilà, je donne mes croissants ou mes baguettes de pain. Dans la réalité du monde, dans la réalité du monde éternel qui est créer, c'est s'étendre. Et donc, le vivant que nous sommes se donne lui-même sans cesse. C'est ce que veut dire la Bible en disant l'homme est créé à l'image de Dieu. Hein? C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même qui se donne à sa création. Évidemment, Dieu fait un avec sa création. Et c'est pour ça que Jésus, il y a 2000 ans, disait, et c'est dans les évangiles canoniques, le Père et moi sommes un. Mais en même temps, il admettait le jeu de la séparation, qui est un jeu illusoire, en disant, de moi-même, je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. Donc c'est quand même fort de dire, le Père et moi sommes un, et puis, en même temps, de moi-même, je ne fais rien, c'est le Père en moi qui fait les œuvres. C'était une manière, en fait, de didactique, pour parler de ce qui est un peu au-delà du vocabulaire, au-delà des mots, où on admet l'illusion de la séparation, c'est-à-dire le jeu humain, le jeu d'identification à un corps particulier, et puis en même temps la réalité de qui nous sommes. Le Père et moi sommes un, ça c'est la réalité. L'illusion, c'est de moi-même, je ne fais rien. Ça veut dire, avec le petit personnage que je crois être, ce petit personnage-là, il n'a aucun pouvoir. Et c'est très difficile d'admettre ça dans ce monde, parce qu'on nous apprend depuis qu'on est enfant à avoir de la valeur par ce qu'on fait, par ce que l'on fait. Ça suppose que au début on n'a pas de valeur, et ça va tellement loin qu'on a inventé même le péché originel, tellement ce concept est ancré dans la culpabilité et dans la vision du petit être séparé, donc vulnérable, donc coupable. C'est pour ça qu'on invente le péché originel, ça n'a aucun sens. Je suis entièrement responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, et tous mes frères et sœurs sont responsables. Ici, nous sommes un groupe autour d'une table, et bien nous créons cela ensemble, avec l'univers entier, avec les 7 milliards que nous sommes, y compris les extraterrestres, et le jeu est parfaitement joué. Pas par les petits personnages, pas par les extraterrestres, pas par je ne sais qui, pas par tel archange ou tel, par qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est au-delà de tout clivage de personnages terrestres, extraterrestres, intraterrestres, angéliques, archanges, tout ce qu'on veut, tout ça c'est moi. C'est pour ça que le courant miracle nous dit, n'oublie jamais que tu ne rencontres que toi-même. Donc, je veux prendre conscience de ma pleine responsabilité de ce qui m'arrive. Il y a une partie en moi qui veut surtout pas voir ça, parce que ça fait peur, et parce que j'ai l'impression de, que tout m'échappe, et en même temps, je suis responsable. Donc, je me dis, mais ça va pas. Mais en même temps, c'est ce qui va me libérer. Ça va me libérer parce qu'effectivement, rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, mais c'est dangereux, il faut que tu te protèges, il faut que tu aies des vaccins, il faut que tu ailles voir des médecins, il faut que tu suives un régime politique, etc. Tout ça, c'est fait partir de la peur. Tout est une question de croyance. Rien de réel ne peut être menacé. J'existe, donc je suis réel, donc je ne suis pas menacé. Je ne suis pas le corps physique. Personne n'est le corps physique. Les personnalités n'existent pas. Donc, effectivement, ce dont nous parlons ici, la non-dualité, c'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme. Et souvent, la façon même dont je suis en train d'exprimer, beaucoup, très souvent, c'est trop pour la plupart de mes frères et sœurs. Ça peut être aussi trop pour moi à certains moments, bien sûr, évidemment. Et donc ça, on le comprend. C'est pour ça que le jeu est extrêmement complexe. Et c'est pour ça que tout est utilisé dans le jeu et qu'il n'y a pas de gros miracle ou de livre miracle ou de thérapie miracle, ça n'existe pas. Il n'y a que des outils qui sont à profusion, qui sont donnés par l'esprit que nous sommes dans cette pièce de théâtre. Cette pièce de théâtre, pourquoi est-ce qu'elle est si complexe apparemment? Parce que quelque part c'est un défi fantastique de dire on est tout ce qui est, hein, on est non menacé et on s'amuse à faire semblant d'être menacé. Semblant d'être identifié un petit personnage particulier. Mais avec quelle puissance faisons-nous ça? Avec qui nous sommes? C'est-à-dire avec la puissance divine que nous sommes. Donc ce jeu-là, il est fantastiquement bien joué. Et la pièce de théâtre est hallucinamment complexe, hein, pour, je ne sais pas, c'est peut-être un mot inventé, mais c'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est pour ça que, d'ailleurs, les des mondes extraterrestres sont tout à fait en admiration devant ce jeu qui est joué ici sur cette planète. Avec les guerres, avec les batailles, avec les armées, les polices, etc. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une armée? Qu'est-ce que c'est qu'une église? Que c'est qu'une police ou une douane? C'est, ou même une entreprise, c'est tu obéis aux ordres. Donc tu tires sur cette personne, et si tu tires pas sur cette personne, tu vas être puni. Tu iras en prison, tu iras, et même tu seras peut-être tué toi-même. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs dans le passé. Maintenant, c'est ce qui se passe encore. Donc le fait, c'est toujours obéir aux ordres. Et on est conditionné ici, par le système à obéir aux ordres. Et même si on est dans une entreprise, même si on a un poste important, le président, le directeur, lui, il a des informations que les subalternes n'ont pas. Et c'est comme ça jusqu'à arriver à quelques personnes sur cette planète qui possèdent les banques, qui possèdent tout ça, qui possèdent l'argent, mais qui sont aussi perdus que nous. Et tout le monde est perdu. Pourquoi? Parce que l'ego est perdu. Et ceux qui veulent du pouvoir, si vous regardez bien, pourquoi est-ce qu'ils veulent du pouvoir? Parce qu'ils se sentent faibles. Donc ils sont pas bien, ils sont pas en paix. Et c'est pour ça que la sortie de ce cauchemar, parce que c'est vraiment un cauchemar, c'est effectivement la spiritualité au sens de non-dualité. Qu'est-ce qui est vrai? Et là on arrive à la question fondamentale, qui est d'ailleurs dit dans le cours en miracle, est-ce que je veux ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Qu'est-ce que j'ai nié? Ce qui est vrai. C'est-à-dire que tout est un. Et on n'est pas séparés. Et nous sommes tous amour. Y compris tout le monde, y compris ceux qui mènent le monde, la centaine de personnes, 200 personnes qui possèdent un pouvoir hallucinant. Eh bien, ils sont amour. C'est moi ça. N'oublie jamais que tu ne rencontres que toi-même. Et donc, on arrive maintenant à parler de vrai pardon où je suis en amour de tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire être en amour de tout? Ça veut dire j'accueille tout. J'accueille absolument tout. Et je n'ai plus de jugement sur rien. Ni en bien, ni en mal. Parce que la pièce de théâtre est parfaitement jouée et elle est illusoire. Et au début, pendant un certain temps, ça peut paraître assez déroutant de dire que c'est illusoire. On a l'impression que c'est inutile de dire ça. Mais tôt ou tard, on arrive à comprendre que c'est fondamental. Parce que ça permet vraiment de choisir ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est l'amour. Ok, même l'identification à un corps, on peut dire, bon, évidemment, c'est un spermatozoïde qui rencontre un ovule, etc., par des processus, etc., puis peu à peu, il y a... Et même, qu'est-ce que c'est que ce corps pour lequel je me prends? C'est des milliards de cellules qui sont agglomérées, qui sont elles-mêmes des petits corps, etc., et puis il y a une identification à un corps particulier. Tout ça, c'est une pensée, c'est un concept, c'est pas réel. Hein, le corps disparaît, mais moi, je disparais pas. et le corps de mes frères et sœurs disparaît, mais ils ne disparaissent pas puisque nous sommes un. Ce qui est réel ne peut être menacé. Et que ce qui n'est pas réel n'existe pas. Donc, toutes les formes que je vois, qui sont donc menacées, puisqu'elles vont disparaître, y compris les corps de mes frères et sœurs, n'existent pas en réalité. N'existent pas. Et j'ai tiré par exemple la leçon 248 du cours, « Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. » Vous vous rendez compte ? Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. Parce que moi, c'est qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est la vie, c'est la plénitude, c'est le bien sans opposé. Donc la non-souffrance, c'est l'existence, c'est ce qui est, donc éternel, non menacé. Et donc, qui ne souffre pas, qui n'a pas peur, qui n'est pas limité et qui n'est pas séparé. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qui apparaît dans notre expérience. Évidemment, on a choisi une pièce de théâtre, on a choisi un jeu fantastique pour justement essayer de s'amuser à voir autre chose que ce qui est. Donc avoir une illusion. En soi, c'est un jeu, c'est tout à fait totalement innocent, d'ailleurs tout le monde est innocent dans l'affaire. Pourquoi est-ce qu'on s'en occupe ? Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a souffrance. Et pourtant, je lis, je reprends ma leçon, 248, « Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi. » Donc, il y a apparemment souffrance, aussi bien chez moi que chez mes frères et sœurs, et en même temps, ce n'est pas nous. Mais non. Est-ce que Dieu souffre ? Est-ce que la vie souffre ? Non, la vie, ça n'a pas de sens. La vie, elle est infinie, elle est, Dieu est. Et ça, c'est qui nous sommes. Alors, comment je vais faire ? Parce qu'en attendant, je me voilà avec cette expérience humaine, avec apparemment des besoins, des peurs, des culpabilités, des angoisses, des joies aussi, des choses extraordinaires, de tout. Qu'est-ce que je fais avec ça ? J'aime. Ça veut dire j'accueille. Ça veut dire je suis amoureux de tout. Ou du moins, j'y arrive pas. D'accord, j'y arrive pas. Mais au moins, j'en ai l'intention. J'en ai l'intention. Et ça, c'est fondamental. Je choisis parce que comme je vis que l'instant présent, comme tout le monde, dans l'instant présent, j'ai un choix. Apparemment. Hein, parce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de choix. Mais apparemment, la notion de choix est utilisée. Et c'est un choix qui est extrêmement simple. C'est un choix entre l'amour et la peur. L'amour, c'est je m'ouvre, et la peur, c'est je me ferme. J'ai peur, je me protège. Et le principe de l'ego, justement, c'est de se protéger, de se cacher. Il y a des secrets, top secrets, on n'en parle pas. On va essayer de prendre une partie du marché de la société concurrente, et on va cacher notre stratégie. Et puis, dans les gouvernements, c'est top secret, partout. Ça, c'est le principe de l'ego. Et quand on veut punir quelqu'un, on le met en prison, on le sépare. Alors que l'enfant, le petit enfant tout petit, qui a 1 an, 2 ans, qu'est-ce qu'il fait ? Allez dans les maternelles, regardez les enfants. Vous les voyez, ils se donnent la main avec toutes les couleurs, les bruns, les pas bruns, les peaux brunes, les peaux claires, tout ce que vous voulez. Ils sont là, ils sont simplement en amour, c'est-à-dire qu'ils sont en observation et ils n'ont qu'une direction, c'est s'amuser. C'est vraiment s'amuser. C'est profiter de la vie, s'amuser, rire. Dans les rues de Sao Paulo, où il y a à peine à manger, mais les tout petits enfants, ils s'amusent toute la journée, avec des cailloux, des bouts de bois, enfin, tout ce qu'ils trouvent. Et quand Jésus nous disait il y a 2000 ans, et qu'il répète encore maintenant, évidemment, redevenez comme des petits enfants, si vous ne redevenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume, eh bien, ça a un sens, ça veut dire... Ouvrez-vous à qui vous êtes. Accueillez qui vous êtes. Et donc, regardez bien, parce que vous vous sentez victime. Et ça, c'est le principe de l'ego. Une des premières leçons du cours, c'est « Je ne suis pas victime du monde que je vois. » Évidemment, c'est moi qui crée le monde. Pas le petit personnage que je crois être. Non, ça, lui, il ne crée rien du tout. C'est une petite marionnette qui n'a aucun pouvoir. Mais qui je suis est le créateur. Mais qui je suis, c'est qui vous êtes. Ceux qui écoutent ces mots-là. Vous, ainsi que tous nos frères et sœurs sur cette planète, nous sommes un, ainsi que les extraterrestres, les anges, qui vous voulez. Où justement on arrive à parler comme ça des anges, extraterrestres, des uns des autres, mais profondément, tout ça c'est un, parce que Dieu est, c'est tout. Dieu est. Et donc, j'ai pas le choix. C'est vrai ou c'est pas vrai ?
Et j'ai pas le choix de, par rapport à ce qui est. Et ce dont je parle ici, c'est pas une loi de faire, c'est une loi de fonctionnement. C'est-à-dire que ce qui est, c'est l'amour, c'est l'esprit éternel, et cet esprit est amour, donc il se donne infiniment, à l'infini. Mais ça, c'est qui je suis. Donc si je veux retrouver cette paix, si je veux arrêter cette souffrance, cette culpabilité, j'ai qu'à simplement choisir d'être qui je suis. Alors comment faire? En ayant confiance. Et c'est pour ça que le cours en miracle nous dit que la première des qualités des enseignants de Dieu, c'est la confiance. Et la confiance, c'est pas ce que l'ego enseigne, ce que le monde enseigne. On a confiance dans les banques, parce que bon, on a confiance dans des assurances, dans des nouvelles armes atomiques ou subatomiques ou tout ce que vous voulez. On a confiance dans telle ou telle personne parce que elle semble être crédible ou... Non, c'est pas ça. La confiance, c'est j'ai confiance en qui nous sommes. J'ai confiance en moi, avec un M majuscule. En toi, avec un T majuscule. En lui ou elle, avec un L et un E majuscule. J'ai confiance en qui nous sommes. J'ai confiance dans l'être que nous sommes, dans la vie. Et je choisis qui je suis. Je choisis qui je suis. Là, maintenant. C'est vrai que ça peut me faire peur. Parce que ça va me coûter toutes mes illusions. Toutes, sans aucune exception, les unes après les autres. Toutes ces illusions de séparation, de sécurité dans ce qui dépérit, ce qui n'a aucun pouvoir, ce qui est un miroir aux alouettes, l'argent, les relations intimes, etc., la reconnaissance des autres, les possessions matérielles, la propriété privée, tout. Même la survie du corps, la santé du corps, tout ça. Ça, c'est des illusions. Mais qui je suis? Ma paix, qui je suis, ne dépend pas de ces choses-là. Car elles sont périssables, elles sont menacées, donc elles n'existent pas. Donc, voilà la dualité dont nous parlons, la non-dualité dont nous parlons. Et c'est un processus, nous sommes dans un processus où nous en reprenons conscience, chacun à notre rythme, dans un chemin hautement individualisé qui est parfaitement guidé par qui nous sommes. Donc la pièce de théâtre que nous avons choisi de jouer, comme le temps n'existe pas, en fait, elle est terminée. Elle n'a même pas commencé. Elle est imaginée dans l'éternel présent. Et nous avons l'illusion de vivre un processus qui se déroule dans un temps linéaire, mais en fait qui est déjà terminé. Et c'est ce que dit Jésus dans un cours en miracle qui dit « L'instant où le Fils s'est endormi, où l'instant où le Fils s'éveille, se réveille, est le même instant éternel. » Et il dit en fait dans l'océan infini, un océan de paix qui est la réalité de qui nous sommes, eh bien cette petite pensée de séparation, c'est comme un tout petit frisier à la surface qui se termine à peine il a commencé, comme s'il avait jamais existé. Mais dans ce petit frisier-là, ce petit chose insignifiante, eh bien, il y a l'univers entier que nous pouvons percevoir. Donc, ce dont nous parlons, cette non-dualité, c'est pas quelque chose de marginal, c'est fondamental. Fondamental. Et tout ce que je viens de dire, vous pouvez l'oublier. Mais il y a une chose qu'on n'oublie pas, c'est l'amour que nous sommes. Et c'est en choisissant l'amour qu'on sort du rêve. C'est en le pratiquant. Et on ne sait pas le faire. Ce qui est important, c'est de simplement en avoir l'intention dans l'instant présent. Je choisis l'amour et je dis non à la peur, je dis non à l'illusion. C'est le symbole de l'archange Michael avec son épée. Il tranche entre le vrai et le faux. Et c'est ça qui se passe de plus en plus. On tranche entre le vrai et le faux. Le vrai, c'est qui nous sommes. Le faux, c'est la séparation. Et donc c'est l'amour, c'est ma pratique de l'amour qui va peu à peu me montrer que ce dont nous parlons ici, eh bien c'est la seule réalité, pas pas les mots, bien sûr, les mots ne sont pas réels, mais ce vers quoi pointent les mots, et c'est qui nous sommes.
Alors, je me sens guidé à citer une phrase d'Éric Barret qui m'est parvenue aujourd'hui à la fin d'un email que j'ai reçu et qui me semble tout à fait pertinente et qui guide aussi mon partage de maintenant. Éric Barret dit « Toutes les situations de la vie sont une occasion privilégiée pour nous mener à l'essentiel. » Je trouve cette phrase magnifique. Elle est très condensée, très simple et en même temps très vraie. Chaque instant est un instant privilégié pour choisir la vérité, pour exprimer l'amour au lieu d'exprimer autre chose que l'amour. L'attaque, la haine, la séparation. Et ceci m'amène à parler du pardon véritable. Puisqu'en effet, les situations de ma vie quotidienne sont toujours des instants où je fais un choix entre l'amour ou la peur. C'est dit d'une manière synthétique, mais chaque chose que j'ai à choisir, je peux le choisir en choisissant l'amour et toutes ses dérivées sur terre, patience, gentillesse, compassion, voilà tout ça, qui sont empreintes de l'énergie d'amour, et puis toutes les la peur et ses dérivées, hein, attaque, impatience, fureur, colère, etc. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Bon, nous sommes à l'école de tout ça, donc a priori, ces leçons-là, nous les avons expérimentées, apprises, répétées un certain nombre de fois. Et à quoi servent ces répétitions ? À choisir. Puisque ce sont des occasions privilégiées pour nous mener à l'essentiel. Donc je choisis la peur, la fois d'après encore, la fois d'après encore, et puis il se passe des choses, je guéris certaines choses, et tout d'un coup je me dis, ah tiens, j'ai plus envie d'attaquer là. J'ai envie d'être compatissant là, j'ai envie de comprendre pourquoi la situation m'est présentée comme ça, là. Pourquoi ce frère qui est en face, même s'il semble me dire des choses désagréables, je peux rester dans l'état calme de ma conscience. Et donc ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé le moment où j'étais amené à pardonner véritablement un frère là. C'est très récent. Je vais pas tout raconter parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles, mais l'essentiel ne l'est pas. Et puis le pardon véritable pour ceux qui ont besoin de l'entendre, c'est pas le pardon du monde. C'est pas tu as fait une bêtise et moi parce que je suis quand même quelqu'un d'important et de profondément supérieur à toi. Je daigne t'accorder ma clémence. Et tu peux embrasser mes pieds aussi, si tu veux. D'ailleurs, c'est carrément obligatoire. Ils sont propres, oui. Ça, c'est le pardon du monde, c'est le pardon de l'ego. C'est celui qui dit que je me compare à toi, que tu te compares à moi aussi. Il y a une notion de supériorité, mais surtout une notion de culpabilité. Et donc, ça induit l'histoire du péché, de la faute. Le pardon véritable reconnaît que ce qui semble s'être passé ne s'est pas produit. Parce que dans l'illusion, on semble m'attaquer. Et comme c'est un rêve que je fais en étant assoupi, en réalité, c'est rien produit. En réalité, c'est l'amour qui joue avec l'amour. C'est Dieu qui s'amuse avec lui-même, la source qui joue en permanence, qui fait des mouvements d'amour dans l'univers pour augmenter l'amour. Voilà ce qui se passe dans les coulisses, mais nous ne voyons que la partie visible de la dualité, la partie visible de l'iceberg. Et le pardon véritable vise à appréhender une situation duelle avec un esprit non duel. Reconnaître qu'en vérité, dans le monde de l'unité, ce qui semble se produire, les guerres, les génocides, celui qui me dit espèce de, trois petits points, mettez ce que vous voulez derrière comme insulte, ça ne s'est pas produit. Et il n'y a que des manifestations d'amour ou des manifestations des peurs qui sont des appels à l'amour. C'est pour ça que c'est l'amour qui joue tous les rôles. Quand je dis... t'aurais pas dû, quand j'accuse, quand j'attaque, eh ben c'est parce que je me sens pas dans l'amour. Si je me sentais dans l'amour, je dirais béni sois-tu, quoi que tu fasses, je serais dans l'accueil total, je serais amoureux de la vie et de ces instants privilégiés qui me permettent de toujours aimer plus. C'est ça le monde où il n'y a que l'amour. Donc nous sommes ici dans un monde très particulier où nous avons des leçons pour choisir l'amour dans chaque instant privilégié qui nous permet de le faire. C'est le pardon véritable. Je crois que ça s'est produit, mon ego se sent attaqué, mais mon être véritable reconnaît que la nature profonde de mon frère qui est en face, c'est l'amour. Et il ne peut agir que pour me donner l'occasion, moi-même, de choisir l'amour, y compris dans des situations qui sembleraient non issues de l'amour. Et tout ça, ce sont des apparences, et je me rappelle que je joue un rôle aussi. Alors, pour parler de ce qui m'est arrivé, alors moi j'anime des groupes de tantra, et puis il y a une personne qui a versé les arts, et tout d'un coup, elle m'appelle et elle me dit je ne peux pas venir pour X raisons, et moi je dis cette raison n'est pas valable, et donc tu dois les arts. Alors voilà, remue-ménage, ça fuse dans tous les sens. Moi, je me fais aussi un peu embarquer. Je reste déterminé. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la règle du jeu. Dans un premier temps, je donne des justifications, je rappelle les conditions, etc. Et puis, ça se termine avec une tension assez palpable. Le téléphone se raccroche. J'ai le cœur comme ça, qui est aussi assez titillé, qui bat. Et puis, je vois que j'ai jeté beaucoup de cailloux dans les temps de ma conscience et que j'ai aussi essayé d'avoir raison avec ce frère plutôt que de souhaiter être heureux. Et je dis, esprit, aide-moi. Et je m'adresse à moi-même, à la partie qui est dans la vérité et dans l'amour et qui a une réponse à cette situation que moi j'ignore quand je passe mon temps à appréhender avec l'ego, hein, comme si je donnais le micro à la partie séparée de mon esprit et en lui disant guide-moi. Et ben sa guidance c'est attaque. Et sa guidance c'est ne fais pas confiance. Et sa guidance c'est te laisse pas faire. C'est toi qui as raison, c'est pas lui. Et bon, juste après avoir accroché, j'ai demandé de l'aide à cette partie de moi qui est dans la paix. Et j'ai demandé aussi à recevoir la guidance depuis un endroit plus calme où mon cœur pourrait s'exprimer plutôt que l'ego, hein, plutôt que la partie qui veut avoir raison. Ça a pris un petit peu de temps, hein, et puis moi j'ai un processus de pardon que j'ai rappelé récemment là dans les enregistrements audio de ces soirées, qui est très simple. Hein. Je cite le prénom de cette personne et je dis tu es un être divin, infiniment puissant, invulnérable, ni dans l'espace, ni dans le temps, ni dans la matière. Je te reconnais digne d'amour. Je te reconnais dans l'amour et nous sommes tous les deux pardonnés. Et l'image qui termine ce rituel interne que je me fais, c'est cette personne qui semblait m'avoir attaqué et moi, on s'éclate d'un grand rire tous les deux en se rappelant que on a joué des rôles qui semblaient s'attaquer et se défendre. Et que finalement, cette personne me dit, t'as vu, je t'ai bien eu, hein, t'as marché dans mon rôle. T'y as cru à mon rôle d'attaque. Hein. Et là, je ris avec lui. Hein, je ris avec celui qui, a priori, devait être le sujet de toutes mes projections et attaques diverses. Donc, déjà, ce rituel, et ce rire que je peux voir à l'intérieur, il enlève le drame. Hein. Je peux pas rire et conserver le drame. C'est l'un ou l'autre. Hein. Donc, je choisis de regarder depuis les coulisses du théâtre que depuis la scène du théâtre. Et là, je vois les projecteurs, et là, je vois le rôle, et là, je me dis, bah oui, je peux aussi rire. J'ai le droit de rire de ça. Parce que je suis dans un rôle où j'apprends à aimer. Voilà mon rôle. Et donc, si je vois qu'il me tend une sorte de piège pour me dire « Et là, tu choisis l'amour ou pas ?» Si je vois ça depuis les coulisses, je réponds « Oui, je choisis l'amour. » Si je vois ça depuis la scène de théâtre, là, je crois tellement à mon rôle, je dis « Il n'en est pas question, tu vas régler les arts. » Parce que c'est dans mon scénario. Mon scénario dit « J'ai raison. » Et mon scénario dit « Que tu t'énerves ou pas, je n'ai rien à faire. Tu vas payer les arts. » Donc, pendant un instant, c'est comme une révolution au sens propre dans mon esprit. La révolution, c'est un virage à 180 degrés, au sens propre. Ça veut dire que je ne regarde plus la situation depuis mon rôle, je la regarde depuis ce que j'imagine être mon être de lumière. Mon être puissant, divin, invulnérable, à qui il peut pas manquer quoi que ce soit, et en particulier pas cette somme d'argent sur mon compte, qui est dans l'amour qui est infini, éternel, et qui ne connaît jamais le manque de quoi que ce soit, et certainement pas le manque d'amour. Ça, c'est le début. Hein. Et puis ensuite, j'invoque, bon, à travers ce rituel, j'invoque l'aide de l'esprit, de mon esprit pur, celui qui n'est pas divisé. Et ce qui me vient, ce qui m'est venu, c'est de dire, qu'est-ce que dirait mon cœur maintenant à cet homme, hein, à cette personne. Voilà. Alors, immédiatement, je peux plus, en parlant de mon cœur, trouver des mots d'attaque. C'est impossible. C'est pas mon cœur qui peut trouver des mots d'attaque. C'est mon mental. Hein. Donc, mon cœur, il dit, toi que je croyais pouvoir détester, toi dont je pensais que tu pouvais m'attaquer, en vérité, je te reconnais digne d'amour. Je te reconnais comme issu de l'amour. Et comme je préfère être heureux qu'avoir raison, ben je lâche joyeusement cette demande que tu me verses, Lézard. Et je lâche également le désir joyeusement d'avoir raison. Et donc, Thésar seront reportés si tu le souhaites, remboursés si tu le souhaites. Quand je vois l'agitation dans laquelle te met ma position, alors je choisis joyeusement de lâcher. Parce que mon but, c'est pas de t'agiter. Quand je vois l'agitation dans laquelle moi, je rentre parce que je défends une position, je choisis joyeusement de la lâcher. Parce que cette agitation, c'est aussi un poison pour moi. C'est aussi ce qui maintient l'état de « je te déteste et je te juge » et je toute la panoplie d'émotions qui vont avec « j'ai besoin d'avoir raison ». Voilà, donc quand je laisse mon cœur parler, il dit ces choses-là, il parle d'amour, il parle de choses vraies, il relativise l'importance de la non-importance de l'argent. Il ne me manque rien dans mon cœur. Hein. J'ai certainement dit encore, c'était un email hein, que j'ai écrit, j'ai certainement dit encore quelques autres phrases issues de mon cœur. Je lui ai dit, je suis disponible pour parler de toi, pour parler avec toi de ça quand tu veux, et tu es un frère pour moi, hein, et tout cela n'a pas l'importance que je lui ai donné, et je lâche tout ça. Voilà. Premièrement, je me suis fait un grand cadeau, parce que j'ai quitté l'attention complètement. Complètement. C'était terminé, hein, au moment où j'ai laissé parler le cœur. Donc, en vérité, j'ai pardonné pour moi, d'abord pour moi, pour quitter cette tension. Et ensuite, j'ai eu le cadeau en retour de son mail de retour qui... manifestait une gratitude par rapport à ce que je lui ai écrit. Et un renversement, c'est ça la révolution, un renversement de la situation. Et là, j'ai reçu des mots d'amour de sa part, il m'a demandé qu'on se voie de visu, qu'on parle, qu'on échange sur nos expériences. C'était carrément... j'ai changé de monde. En l'espace de quelques minutes, j'ai changé de monde en changeant l'expérience de mon esprit. J'ai changé de comment je vois la situation. Et ça m'appartient à 100%. Et c'est ça le pardon véritable. Comment je vois la situation? Est-ce que je la vois avec l'ego? Est-ce que je la vois avec le cœur? Et si je l'ai vu avec l'ego, je peux toujours faire un autre choix. Et c'est ce que j'ai fait. Hein, et c'est pas parce que je me laisse un peu entraîner dans le tourbillon que je peux pas faire plus tard un autre choix. Et plus je le fais, plus je m'entraîne à ne choisir que avec l'amour, l'esprit pur. On l'appelle le Saint-Esprit dans le courant miracle, hein, mais dans le sens pur, vrai, hein, la partie vraie de mon esprit. Donc Le soulagement est indicible et le miracle, c'est celui-là. Le miracle, c'est j'ai changé d'état d'esprit et puis la situation précédente, elle est carrément gommée, elle est effacée. Il n'y a plus rien à nettoyer, c'est tout entièrement fait. Et je vais le voir, je vais le prendre dans mes bras. Alors que j'aurais pu être dur avec lui, j'aurais pu lui dire « tu mets pas un pied chez moi, tu viens plus à mes groupes ». Voilà, je suis moi-même impressionné de la puissance du pardon, de ce pardon-là. Et je suis moi-même convaincu que ça ne vient pas de moi en tant qu'avis, personnage humain. Et que si je le demande, je le reçois, mais je le reçois d'une partie qui est subtile, la partie vaste de moi qui peut me dire qu'est-ce que l'amour ferait à ta place? Qu'est-ce que l'amour dirait à ta place? Est-ce que encore tu veux choisir le reproche, encore l'attaque, ou est-ce que tu veux essayer autre chose? Voilà. Je tenais à partager cette situation toute fraîche, qui date de quelques jours, et je remercie réellement l'esprit pour me donner, comme Éric Barret disait, des instants privilégiés qui mènent à l'essentiel, et l'essentiel, c'est notre cœur. C'est pour ça que sur Terre, il y a plein de voies de développement personnel, parce que tous les chemins mènent à Rome. Et Rome, c'est le cœur. Hein. Il y en a qui sont attirés par l'art, ben l'art mène au cœur. Il y en a qui sont attirés par la musique, il y en a qui sont attirés par le tantra, il y en a qui sont attirés par le dessin ou la peinture. Mais peu importe, les chemins sont multiples, mais tous ces chemins-là mène à l'essentiel, et l'essentiel, c'est notre essence. Ça veut dire de quoi nous sommes composés en réalité, et nous sommes composés uniquement d'amour. Et comme l'amour accueille tout, l'amour ne juge rien. Comme Dieu, comme il est tout, il ne peut pas opposer quoi que ce soit à quoi que ce soit d'autre, puisqu'il y a une seule chose, c'est Dieu. Un seul être, une seule conscience, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas Dieu et un adversaire pour faire un combat. Donc, forcément, Dieu accueille tout et Dieu ne juge rien. Et c'est notre leçon en tant qu'humain, en tant qu'être divin, que de partir de la non-connaissance pour revenir à la connaissance. Hein. Nous oublions l'amour pour joyeusement nous le rappeler à travers ces instants privilégiés qui mènent, si nous savons les utiliser, à notre essence. Et c'est pour ça qu'il y en a des milliers, des millions, et on utilise des fois plusieurs vies, des milliers de vies, pour multiplier ces expériences, et le seul but de chaque expérience, c'est choisir l'amour. Et même si ça paraît pas simple du tout. J'ai parlé.
Je te remercie pour ton exemple. En fait, moi, en ce moment, je trouve que c'est difficile de. Enfin, la vie me demande de faire pas mal de choix, de prendre des décisions. Et j'ai du mal à savoir. Enfin, il y a des exemples qui sont simples où je vois bien que je choisis ou l'ego ou l'amour. Pour l'instant, je suis plutôt du côté de l'ego, mais je suis consciente et j'y travaille. Mais après, je trouve que c'est difficile sur certaines décisions ou choix que je fais en ce moment de savoir si je suis guidée, par quoi je suis guidée. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est difficile en fait d'avoir ces deux niveaux-là. Moi, c'est ce que je vis en ce moment, c'est d'avoir ces vraiment deux niveaux-là en permanence. Alors, je me suis dit que j'allais avoir deux vies parallèles, pour l'instant. Je me dis, bon, moi, j'ai une vie, alors, matérielle, alors il faut que je gagne de l'argent, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Voilà, il y a un corps humain, etc., etc. Puis j'ai une autre vie, donc dans l'autre vie, je suis d'autres choses. Enfin, où je suis autre chose. Mais j'ai deux vies parallèles, quoi. Il y a la vie de l'ego et la vie de l'amour et pour et dans les décisions que je dois prendre, alors pas dans les relations humaines, c'est vrai que dans les relations humaines ouais, je choisis encore beaucoup l'ego plutôt que l'amour, Même si... Enfin, ça dépend des fois quand même, hein, j'exagère un peu. Mais bon, dans certaines situations, je... Enfin, je sais pas. Moi, je... C'est pas aussi simple que ça pour moi, en fait. C'est pas aussi simple que ça de choisir... De choisir l'amour ou de choisir... l'ego, parce que des fois j'ai l'impression que dans l'ego des fois il se cache l'amour, dans l'amour des fois il se cache l'ego. Je trouve que c'est très subtil parfois, enfin dans ce que je vis en tout cas, c'est hyper subtil. Et alors des fois je me dis, j'ai fait ça, je me dis mais j'ai cru que c'était de l'amour, mais ça se trouve de l'ego, enfin ça reste confus quoi, pour l'instant ça reste assez confus dans ce que je vis. Parce que aussi j'ai une vie qui, enfin, on me demande de je sais pas comment expliquer, mais on me demande de, enfin, je vais l'appeler mon âme. Pour moi, mon âme, l'âme, c'est entre l'ego et l'esprit. Enfin, c'est comme ça que je le vis. Et mon âme me demande, enfin. Enfin, j'ai l'impression que je suis conduit et que c'est pas moi qui conduis, quoi, en gros. Alors, évidemment, je vais faire des choix, mais... Enfin, c'est comme si j'avais une pièce de théâtre, mais que dans la pièce de théâtre, en fait, il y avait quand même... au fond, c'était pas moi qui faisais vraiment le rôle, quoi. Il y a un truc au-dessus qui me dit... Enfin, je sais pas. Qui me dit, va à droite, va à gauche... Enfin voilà, ce qui manque là, par exemple, quand on parle, c'est voilà, je vois bien l'ego, je vois bien le monde de tout ce que tu as dit tout à l'heure et tout ça. Donc ça voilà. Et j'ai envie de dire entre les deux, mon cœur balance. Et là, il me manque un espèce de milieu que moi j'appelle âme, parce que pour moi l'âme, il y a un côté qui est divin, puis il y a un côté qui est humain, puisqu'il y a eu des réincarnations, il y a eu des mémoires, etc. Donc voilà. Et avec tout ça, je suis complètement paumée. Non, mais sérieusement, je suis complètement paumée. Et j'ai à prendre des décisions. Et alors, je sais plus, si c'est l'ego, si c'est l'âme, ou l'esprit qui doit le prendre. Et l'esprit, j'essaye de lui demander, mais il me répond pas des trucs, évidemment, parce que j'imagine que quand je demande, je veux sûrement des réponses de l'ego, donc forcément, lui me raconte autre chose. Enfin bon, c'est le bordel. C'est drôle, mais c'est le bordel.
Écoute, oui, Estelle, il me vient en t'écoutant que... Il me vient très fort, c'est cette notion de valeur. Pourquoi on est perdu? Pourquoi on est perdu? Parce qu'en fait... On se rend pas compte à quel point on nous a appris la notion de valeur depuis qu'on est tout petit. Et qu'à chaque fois, on hésite et on a peur parce que on va prendre des décisions et inconsciemment, on se dit ça va être bien ou ça va être mal. Et donc, il y a ces notions de valeur et on donne des valeurs à tout, négatives ou positives. Et comme, en fait, rien n'a de valeur, tout est neutre, et ça, c'est une notion fondamentale, pourquoi est-ce que c'est neutre? Parce que c'est pas réel. Et c'est là que cette notion qui paraît un peu théorique et un peu conceptuelle au départ de c'est pas réel, ça commence à prendre beaucoup d'importance. Comment est-ce que quelque chose qui n'est pas réel, qui n'existe pas vraiment, peut avoir une valeur positive ou négative? Ça ne veut pas dire que cette chose ne va pas être utilisée par le processus dans lequel nous sommes, bien sûr. Tout est utilisé. Une tasse, n'importe quoi, une théorie, une parole, une relation, tout est utilisé. Mais même si c'est pas réel. Et parce que rien n'est réel ici, mais c'est utilisé. Disons que le rêve donc est imaginé, il n'est pas réel, mais tous les éléments du rêve sont utilisés. Et donc, et ça c'est une leçon qui semble très difficile, parce qu'on est tellement habitué à donner une valeur, c'est qu'on a peur de se tromper, et donc on est perdu, et on se dit, je vais faire ça, je vais prendre telle décision, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, et finalement on va me juger, ou je vais me juger moi-même. Et c'est d'ailleurs ce que fait l'ego. Il te dit, tu vois, tu t'es encore trompé. Tu vois, tu t'es encore planté. Tu vois, tu n'arrêtes pas. Tu voudras arrêter de fumer, et puis tu continues de fumer, tu vois. Et puis tu vas te forcer, et puis tu vas peut-être arrêter de fumer, mais à quel prix, etc. Et l'ego va toujours te descendre.
Hein, il va toujours parce qu'il donne une valeur et que et qu'en fait, l'ego essaie de se donner une valeur et surtout de nous dévaloriser. De nous dévaloriser. Et donc, on essaie de se donner une valeur, d'essayer d'assembler, d'avoir la reconnaissance des autres, de justement choisir, de faire les bons choix et donc de réussir. Et ça, c'est faux. Et c'est absolument faux. Et donc, ça ne marche jamais. Et donc, l'ego dit, ah, tu vois, tu t'es encore trompé, mais viens, je vais te montrer autre chose. Et c'est pour ça qu'on va encore courir après autre chose, autre chose, autre chose. Ça n'arrête pas. Hein? Et ça ne marche jamais. Mais et l'ego ne veut pas voir ça, parce que s'il voit ça, c'est la mort de l'ego. Mais qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est une croyance. L'ego, on dit, c'est la mort de l'ego, mais c'est une façon de parler, parce que l'ego ne meurt pas, hein, c'est une croyance. Disons que c'est la disparition de cette croyance. Mais pourquoi est-ce qu'on veut s'y accrocher tant à cette croyance? Parce qu'on s'identifie à ça. On s'identifie à un être séparé, donc qui est menacé, qu'il faut protéger. Ça suppose l'attaque et la défense. Donc, le fait de choisir l'incarnation humaine, de choisir, donc, on ne peut pas venir ici sans un ego, c'est-à-dire sans le sens, sans avoir le ressenti d'être séparé. C'est fondamental. Et à ce moment-là, automatiquement, vient l'attaque et la défense. L'enfant, le tout petit enfant, qui a 6 mois, 1 an, il n'a pas la notion d'ego, il n'a pas la notion de séparation. Il est observation pure. Vous pouvez regarder un enfant, regardez-le dans son berceau, observez-le pendant des heures, vous allez voir, vous allez comprendre ça. Ou regardez aussi un animal, un chat, un chien ou un oiseau. Il est simplement observation pure, il est présence. Il n'a pas la réflexion sur lui-même. Et c'est l'être humain qui a ça. Ça fait partie de ce jeu, de cette pièce de théâtre. Et dans la réflexion qu'on a sur nous-mêmes, il y a cette notion de valeur et qu'on inculque soigneusement aux enfants. Dis, remercie la dame, là. Dis merci. Excuse-toi. Il faut que tu réussisses à l'école, etc. Et puis, peu à peu, ça, partout, il faut avoir de la valeur, il faut être reconnu par les autres, donc il faut avoir un aura. Ça va être par l'argent, par les relations. Il faut avoir un beau corps. Enfin bref, comme ça, à l'infini. Et on donne de la valeur aux choses. Et tout est comparé. Si vous observez les magazines, écoutez, regardez la télévision, regardez comment c'est fait la publicité, ce n'est que des valeurs. Il n'y a que ça. Et ce qui est au-delà du mesurable, donc du comparable, ça n'a pas de sens. Or, qui nous sommes, c'est une magnificence. Et l'amour, lui, ne compare rien. L'amour aime à l'infini. Il aime un petit enfant, un vieillard, il aime un merle qui passe, il aime un chat qui est là, sur le canapé à côté de moi, n'importe quoi, ou toi qui es en train de prendre un morceau de gâteau. Il est amoureux de tout, l'amour. L'amour, tout l'émerveille. Hein? Et c'est ça, on est en train d'aller vers ça. Donc quand, effectivement, je constate que je suis paumé, comme tu viens de le dire, eh bien, je me dis, bon, ok, mais j'arrête, je respire, et puis j'observe, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je ne suis pas bien, c'est ça qui est important. Si je ne suis pas bien avec des décisions à prendre, avec le comportement de telle personne, un tel m'agace, ou ceci, cela, ce qui est important, c'est pourquoi je suis affecté. C'est là que ça se passe, c'est pas l'autre. Que l'autre soit un voleur, pas un voleur, un saint, etc. Et puis même si c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et je vais dire, mais l'autre, il est mieux que telle autre personne. Ah, j'ai fait un jugement là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe en moi? Donc c'est d'ailleurs l'autre personne qui est moins bien. C'est en moi. Et je suis en train de mettre l'autre sur un piédestal et je suis en train de me séparer de moi. Et parce que l'autre, c'est moi. Et donc, tout est moi. Donc, c'est jamais l'extérieur qui en soi est bien ou mal. Ce qui est important pour moi, c'est de voir mes réactions par rapport à ce qui semble être extérieur. Et comment fait l'amour? L'amour, il aime. Et c'est tout. Hein? C'est pour ça que cette notion d'amour, elle est fondamentale. Donc, merci d'avoir partagé ça, Estelle, parce que ce que tu as décrit comme ça,
t'as mis au moins 5 minutes, montre en main, à décrire, on le connaît tous. On connaît très bien ça, donc merci beaucoup. Parce que ça nous montre que quand j'ai ça, ou que je suis pas bien, c'est toujours, on peut dire, c'est une façon de parler, mon intérêt de respirer, d'observer, de dire, bon, ok, j'accueille mon mal-être, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va avoir des réponses. Ah oui, je donne de la valeur, j'ai peur de prendre des décisions. C'est pour ça que je sais plus que si j'écoute la voix de mon ego ou la voix de l'esprit, j'ai peur de me tromper. Donc, et pourquoi tu as peur de te tromper? Je parle d'une, en général, aussi bien à moi qu'aux autres. Pourquoi est-ce que tu as peur de te tromper? Ben, j'ai peur de me tromper parce que j'ai peur de ce qu'on va dire, j'ai peur d'être puni et j'ai peur de Dieu. C'est pour ça que le courant miracle nous dit d'ailleurs, le dernier obstacle à la paix, le plus caché, c'est la peur de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire la peur de Dieu? C'est la peur de quelque chose, parce que Dieu, c'est pas Dieu comme ça, mais c'est, on a peur d'être puni parce qu'on s'est fabriqué un Dieu extérieur, une autorité qui, effectivement, fait marcher les saisons, les planètes, les systèmes solaires, etc., l'univers entier, cette puissance incroyable, et nous, on est comme un petit fétu de paille à côté de ça, on n'est rien du tout. Et donc, et j'ai plutôt intérêt à le contenter, celui-là, parce que sinon, je vais être puni, hein. J'ai plutôt intérêt. Et c'est exactement ça. Et alors qu'en fait, Dieu n'est qu'amour. C'est pas ce qu'enseignent les religions. C'est marqué dans les, bien sûr, dans la Bible partout, Dieu est amour. Mais il y a des contres. Il y a Dieu est amour, bien sûr. Et puis tout d'un coup, une page après, il y a mais. Et Dieu a ses ennemis. Et ses ennemis vont être annihilés, etc. C'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pour ça qu'on dit que les religions ont fait un Dieu anthropomorphe. Anthropomorphe, ça veut dire un visage humain. On prête à Dieu, à la vie, à ce qui est éternel, des émotions humaines, c'est-à-dire des peurs, des attaques, des défenses, des besoins de se protéger. Ça n'a pas de sens. La vie n'a pas besoin de se protéger, elle est. Dieu est, nous sommes. Et donc, effectivement, ce que tu as décrit là, on le connaît tous. Et c'est pour ça, par exemple, Eckhart Tolle, qui est devenu un best-seller, quelqu'un de, qui a un gros impact avec son premier livre, qui est Le pouvoir du moment présent. Dans l'instant présent, il n'y a que l'instant présent. Et à ce moment-là, si je suis vraiment dans l'instant présent, il n'y a plus de culpabilité par rapport au passé, et il n'y a plus de peur par rapport au futur. Il y a simplement accueil de ce qui est là. Et on peut le faire ensemble, je suis en train de le dire, je m'arrête de parler parce qu'en fait, je le ressens, j'ai besoin de faire silence, j'ai besoin de l'intégrer de plus en plus. Il n'y a que l'instant présent et il n'y a que la perfection de l'instant présent. Regardez, dans cet instant présent, vous êtes peut-être en train d'écouter l'enregistrement, regardez exactement là où vous êtes, et dans votre monde, la pièce qui vous entoure, la ville dans laquelle vous êtes, la campagne, etc., toute la planète, tout ça fonctionne. Et l'esprit connaît tout ça. Donc l'instant est parfait. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun instant qui est comme un autre. C'est-à-dire à chaque fois, tout bouge, tout change. Et donc c'est toujours changeant, c'est toujours différent. Mais ce qui est parfait, c'est le jeu lui-même. C'est cette puissance de création, d'imagination, qui fait que tout ça, ça fonctionne ensemble. Et ça, c'est qui nous sommes. Et en fait, comme on a choisi de faire cette pièce de théâtre ensemble, on peut dire, c'est une façon de parler, bien sûr, c'est un concept de plus, que nous sommes la colle qui maintient tout ça en place. Nous sommes la colle, mais c'est une façon de parler, notre esprit est en train de maintenir tout cet univers, son fonctionnement, les galaxies, les saisons, etc. Tout ça fonctionne, mais c'est nous qui imaginons ça. Nous, en tant qu'un esprit, un seul esprit, un. Ce que le cours appelle le Saint-Esprit. Et ça, c'est qui nous sommes. Tout à l'heure, je disais, je reprenais l'introduction du cours, rien de réel ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe. En cela se trouve la paix de Dieu. En cela se trouve la paix de Dieu. Et donc, quand je me pose la question, mais je suis paumé dans mes décisions, est-ce que je vais prendre les bonnes ou pas bonnes, qui parle? Et c'est l'un qui parle, parce qu'il n'y a que la source, Dieu est tout ce qui est, donc tout va bien. Donc ça va, j'ai pas à me faire de soucis par rapport à la voix que je vais entendre. Est-ce que c'est l'ego, est-ce que c'est le Saint-Esprit ou je sais pas quoi. J'accueille l'instant présent, j'accueille mon innocence ainsi que l'innocence de tous mes frères et sœurs. J'accueille la perfection de l'instant présent. Peut-être que j'ai quand même des peurs, peut-être que j'ai quand même des culpabilités, enfin des ressentis de peur, des ressentis de culpabilité. Culpabilité par rapport au passé, peur par rapport au futur. D'accord. Ça, je nie pas ça. Mais qu'est-ce que je veux profondément? Je veux la vérité. Et donc, je demande à l'esprit de me montrer sa vision. Voilà. Je dis, moi, j'ai choisi cette expérience de séparation, donc j'ai une vision fausse, j'ai une perception fausse, d'accord? J'ai choisi. Hein, par jeu. Donc, ok, je l'accueille. Effectivement, je vois tout à l'envers, je me sens menacé, j'ai des colères, j'ai des angoisses, j'ai peur de manquer. Ok, j'ai choisi cette expérience d'ego. Donc, d'accord. Je demande maintenant à l'esprit, et alors, je veux bien, comme c'est un jeu, je le joue, mais je suis pas heureuse ou heureux. Hein. Et c'est ce que disent les bouddhistes en disant la vie est souffrance, c'est ce qu'ils veulent dire. La vie perçue par l'ego. Elle est souffrance, effectivement, donc ça colle pas. Personne n'a envie de souffrir. C'est pour ça qu'on veut se réveiller, que profondément en nous, il y a un appel à l'éveil. Et on veut tous s'éveiller. Je parle des 7 milliards que nous sommes. Alors à ce moment-là, évidemment, j'observe. Je suis paumé, je sais pas, j'ai peur, d'accord, j'ai mes peurs. Ok, j'accueille ça. Ça fait partie de ce que j'ai choisi. Non pas d'avoir peur pour avoir peur, mais j'ai choisi ce jeu de la séparation et ça va enclencher automatiquement peur et culpabilité. Ça, c'est automatique. Ok. J'arrête de m'en sentir coupable. Et donc je respire dans l'instant présent. Je respire. Je prends mon temps. Je m'arrête un peu. Je fais beaucoup, tout à l'heure, à vie partager ces expériences. Moi, je dois dire que depuis quelques temps, quelques mois, pas très longtemps, mais souvent, je m'arrête, je marche beaucoup. Là, dans Paris, je vais au Champ de Mars, j'habite à côté du Champ de Mars, je marche beaucoup. Et très souvent, quand je me surprends à avoir des pensées, une petite pensée d'angoisse, ou je m'arrête. Je m'arrête à un coin de rue, n'importe où, devant. Je m'arrête, je m'adosse à une vitrine, et puis je prends conscience des gens qui sont là. Je respire. Je prends mon temps. C'est magique. C'est magique. Je vous invite à faire la même chose. C'est vraiment, en quelques secondes, ça change tout. J'accueille ce qui se passe. J'accueille une voiture qui passe, un klaxon, un motocycliste qui passe en faisant un bruit effrayant. Et je passe à l'amour. Et celui qui fait du bruit, qui normalement m'agace ou me casse les oreilles, je t'aime. Je comprends. Tu t'amuses avec ta moto, je comprends ça. Moi aussi, j'ai bien aimé les voitures de sport et tout ça. Ok. Ok, moi aussi j'ai aimé, quand j'étais étudiant, on a envie d'épater la galerie, oui, ok, je comprends. Et puis on a envie de s'amuser, un enfant a envie de s'amuser, c'est amusant d'avoir cette impression de puissance que j'ai eue par exemple en faisant du surf en Afrique. J'ai fait du surf et j'ai eu cette impression d'être poussé par les vagues, c'est vertigineux le surf, le vrai surf sur les vagues. Donc je comprends, et on comprend tout, et on s'arrête. On s'arrête, on est là dans l'instant présent. Voilà. Voilà. Et puis, je suis pressé, mais non. Oui, apparemment, je suis pressé, mais je suis pressé pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la vie? C'est des millions de secondes qui, dans un temps illusoire, qui passent. Et alors, à un moment, je vais manger une banane, à un autre moment, je vais enfourcher ma bicyclette, à un autre moment je vais aux toilettes faire pipi, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la vie. Puis à un moment je parle, ici je suis chez Avi, j'ai la micro, je parle. Mais à chaque fois c'est moi. Mais si c'est pas moi, à chaque fois c'est la vie qui s'exprime. Dans la bougie qui est là, qui est en train de brûler en face, ceux qui écoutent, la nature qui pulse partout. Tout ça c'est un. Il n'y a qu'une seule vie. Tout à l'heure, l'avis partagé, la vie est une, je la partage avec Dieu, quelque chose comme ça, cette leçon du cours. Et quand on dit je la partage avec Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une façon de parler, puisqu'il n'y a que Dieu. Ça veut dire que le petit personnage que j'imagine être, parce que je me suis imaginé ça, et c'est très bien imaginé, quelque part, il accueille l'amour. Donc, il accueille la perception de l'illusion, le sentiment d'être séparé, d'être un corps physique isolé au milieu de 7 milliards d'autres corps sur cette planète, cette petite planète d'ailleurs blottie dans le noir dans l'univers, un univers gigantesque. Donc j'accueille cette expérience qui est dérisoire en elle-même mais qui est magnifique en même temps, et j'accueille aussi le fait que tout ça n'est pas réel et qu'il n'y a que l'amour et qu'on est tous ça, cela. Alors évidemment, c'est pas mon mental qui va me le montrer, c'est mon cœur, pas le cœur physique. Le cœur, c'est un mot qui veut dire l'amour que nous sommes. Et cet amour-là, c'est qui nous sommes. Et donc pourquoi est-ce qu'on peut même parler de ça dans cette expérience illusoire de séparation qui est incroyable? À cause de qui nous sommes. Et ça parle à tout le monde. C'est pour ça qu'à la fin du premier chapitre, le premier chapitre du texte du cours en miracle, qui a 31 chapitres, mais le premier chapitre, à la fin, il dit un peu, on va aller doucement là, parce que ce dont on parle, ça peut faire monter les peurs, et puis, c'est pas évident. Mais en même temps, tout le monde sait de quoi on parle. Pourquoi? Parce que nous sommes un. Donc cette non-dualité, cet appel à l'éveil, cet appel à exprimer l'amour, à vivre l'amour, nous savons tous ce que c'est. Et tout le monde se languit de retrouver cet état, cette conscience, pardon, de qui nous sommes. C'est le but de l'incarnation humaine, hein, c'est retrouver qui nous sommes. Et je dirais même que c'est le but de l'univers entier, c'est de se rappeler qui nous sommes. Au départ, il y avait ce jeu pour s'amuser à faire semblant de ne pas être qui nous sommes, et puis devant, après avoir vécu énormément d'expériences, et puis avoir bien pleuré, aussi on a bien ri, mais aussi beaucoup pleuré, eh bien on dit, ben on en a un peu marre là, on commence à être fatigué, c'est ce que nous dit Jésus dans le cours en miracle, le monde est fatigué. J'aime bien le terme anglais, c'est « the world is weary », le monde est fatigué, et on a envie de dire, ça va, c'est bon. Maintenant, on choisit l'amour, on choisit la joie. Et on le choisit maintenant. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait plus tôt? Ça a été un peu à la surprise générale dans l'univers. On n'avait pas imaginé que l'oubli serait atteint à un tel degré. Mais il a été décidé que l'expérience allait se prolonger. Et maintenant, nous sommes arrivés à une période clé. Et là, je parle sur des millions d'années. Hein. Nous sommes arrivés à une période clé. Où on se réveille vraiment. Et même par rapport au siècle dernier, à 1000 ans, 2000 ans, 3, 4000 ans, où depuis 7000 ans, 8000 ans, on est dans une période de survie, et maintenant on termine vraiment une période et on rentre dans une période d'éveil. D'éveil à quoi? À une expérience amoureuse. Ça reste un rêve, ça reste une illusion puisqu'on perçoit. Seulement, on a conscience de l'amour. Disons que on a toujours conscience de percevoir, mais on sait que c'est une perception. Et donc, on n'est plus piégé dans l'illusion de la séparation. Même si on a encore les réactions et le ressenti de la séparation, bien sûr. Tant que l'expérience humaine, on a ce ressenti. Mais il y a la paix qui est là maintenant. Il y a le vécu de l'amour, le vécu de l'ouverture dans l'instant présent. C'est pour ça que de plus en plus, nous sommes nombreux à avoir des petits trucs, chacun à sa façon, où très vite, on revient à l'essentiel devant une difficulté, devant, disons, quelque chose qui nous perturbe, ou tout à l'heure, Ravi nous partageait justement son expérience, très claire, très pratique, avec cette personne et les arts versés pour son atelier, et puis très rapidement ce changement avec arrêt sur image, on arrête, un peu comme je fais quand je suis dans la rue, je m'arrête, et puis non, je choisis autre chose, et là ça change très vite. Voilà, c'est ce que nous faisons tous, c'est ce que nous apprenons en ce moment tous à faire, et c'est ce que nous partageons ici.
Et moi, il me vient de faire une brève intervention à propos du grain de sable qui peut gripper les engrenages de l'ego. C'est l'image qui m'est venue. Et aussi à propos du GPS que j'ai en moi. Alors, j'ai en moi un GPS qui me guide quand j'ai envie d'être guidé, mais parfois, simplement, j'oublie de l'allumer. Et quand je suis paumé, comme tu dis Estelle, c'est important de se rappeler d'allumer le GPS. Allumer le GPS, c'est un saint GPS, puisque c'est lui qui va me dire à droite ou à gauche, j'ai besoin de me rappeler que j'en ai un, j'ai besoin de aussi d'arrêter d'entretenir l'agitation, comme disait Sylvain. Le moment de pause est fondamental. Vraiment, il n'y a rien qui peut être fait tant que je continue à jeter des cailloux dans le lac. Alors, quand je vois que ça se passe, que ça soit pendant ou après, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le renversement de l'esprit. Et quand il se passe, le miracle se passe. Donc, j'arrête d'alimenter l'agitation. Comment ? Eh ben, je respire, je m'assois, je me dis à l'intérieur, stop, je veux autre chose. Je veux être vraiment guidé. Quand je cesse d'entretenir, je crée un espace vide de silence dans lequel la guidance peut se déverser. Si c'est toujours agité, l'esprit parlant d'une voix très subtile, beaucoup plus subtile que l'ego, eh ben je n'entends pas, tout simplement. Donc, Saint-Esprit aide-moi. Après avoir fait une pause, j'allume mon GPS, je me mets à l'écoute, en demandant sincèrement de l'aide. Ça, c'est la partie que je n'oublie pas d'allumer mon GPS, parce que je l'ai avec moi, et il est toujours disponible, mais je dois le mettre sur on, marche. Et puis, j'ai visualisé l'ego comme une mécanique bien huilée, avec des engrenages, comme une montre, mais qui reproduit des fonctionnements. Comme une montre va toujours de manière circulaire, égrener les minutes, les secondes, les heures. Mais un grain de sable, ça bloque tout, ça bloque l'horloge. Donc comme l'ego aussi est une mécanique qui fonctionne avec l'attaque, la défense, parfois il suffit d'un petit grain de sable, et ce grain de sable, il ne peut se placer que si je connais le fonctionnement de l'ego, si je l'ai étudié, si je vois dans quelles conditions il se déclenche, et le moment où je peux dire stop à la réactivité. Ça c'est désarmer l'ego au sens propre, parce que l'ego a les armes à la main. L'ego ne connaît pas la solution par le calme. L'ego connaît la solution par plus d'agitation. Donc désarmer l'ego, le grain de sable que je mets dans la machinerie de l'ego, c'est j'utilise cette pause pour revenir au calme intérieurement. J'arrête d'entretenir ces croyances d'attaque et de défense. Voilà, cette leçon-là, que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Si je le dis déjà, ça peut avoir de l'effet, puisque je déclare une intention. L'intention est extrêmement puissante. Et puis dans l'état de calme, Saint-Esprit, Holy GPS, aide-moi. Saint GPS, je suis disposé à recevoir ta guidance. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Et c'est dans le calme, ce n'est plus le mental qui parle. Le mental aussi se calme. Les pensées aussi se calment. L'ego, c'est pas un être qui a son autonomie et qui vit sa vie comme une entité indépendante. Je l'alimente avec des pensées de séparation. Et quand je décide d'arrêter de jeter de l'huile sur le feu, ou d'arrêter d'alimenter avec des pensées de défense, ou même des questionnements permanents, alors, comme un enfant qui est agité, il commence à se calmer, puis il s'endort. Après, il s'endort. C'est-à-dire, c'est plus lui qui dirige. Hein. Je reprends le pouvoir. Ça se passe avec la pause. Hein. C'est une pause qui dit que mes pensées soient calmes et que mon esprit retrouve la paix. Dans cette pensée-là, dans cet état-là, je peux plus facilement être guidé pour dire ou faire ce qui est juste. Donc, dès que c'est possible, je m'arrête. Parfois, c'est pas possible dans le feu de l'action. J'essaie de stopper la réactivité dès que je peux. Et ensuite, j'essaie de me poser où je peux, quand je peux, même si c'est un jour, même si c'est une semaine après. Ça n'a pas d'importance puisque c'est tout en esprit. C'est tout un état d'esprit que je change. Donc, une semaine après, je peux encore avoir plein de reproches dans ma tête, plein de rancœurs, même 10 ans après, même 30 ans après. Gary Renard nous disait cette chose merveilleuse. Gary Renard, il a écrit « Et l'univers disparaîtra », vraiment sur le pouvoir du véritable pardon, entre autres. Et il disait « Avant, quand je devais pardonner, ça me prenait 30 ans et maintenant 30 secondes. » Pourquoi ? Parce qu'il s'est entraîné. Donc personne ne fait appel au véritable pardon comme ça par magie. Je recommence et je recommence et je recommence et je n'oublie aucun jugement, aucune situation, aucune agitation qui ne soit pas pardonnée. Donc je m'entraîne, quel que soit le temps qui s'est écoulé depuis l'événement, je demande à voir la situation autrement, à mon saint GPS. Et à ce moment-là, je me mets à l'écoute. Si j'ai demandé que je me mets pas à l'écoute, c'est que je veux pas entendre de réponse. Hein. Donc, si je veux pas entendre de réponse, bien sûr, je n'entendrai pas. Mais qu'est-ce que je veux ? Hein, la question à nouveau se repose. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Mais moi, je veux être heureux. Je veux calmer l'agitation. Je veux la paix. Je veux qu'on m'aime. Et je veux aimer aussi. Parce que c'est comme ça que je m'exprime le mieux sur cette terre. Et j'ai le pouvoir d'actionner le levier ou de mettre le petit grain de sable qui va bloquer les rouages que l'ego a l'habitude de faire fonctionner. Hein. C'est super important. Une autre chose qui bloque l'ego, c'est une pensée d'amour. Si j'aime mon ego, si je lui dis « Ouais, je t'aime, calme-toi, ça va bien se passer, tranquillise-toi », mais l'ego est décontenancé parce que l'ego ne sait pas émettre une pensée d'amour. C'est étranger. Donc il est dans un terrain complètement inconnu. Et là, c'est l'ego qui est paumé. Et super. Parce que quand l'ego est paumé, le cœur a la voie libre. Hein. Donc, si j'alimente pas avec des pensées, l'ego va de lui-même comme un dragon. Il va se poser à mes pieds et s'endormir parce qu'il est à mon service. Hein. Je lui ai donné un pouvoir qui outrepassait tous ses droits. Il est utile, l'ego, mais pas quand il devient un tyran et pas quand il devient un enfant capricieux. Quand il est à mon service. Et je peux le remettre à mon service en l'aimant. Hein. Je fais de mon mieux, oui je sais, t'es inquiet, oui je sais, tu penses que tu vas être SDF, oui, je sais, je te comprends en même temps. Mais tranquillise-toi, je peux même lui donner un petit nom, hein. Tranquillise-toi, hein, cher petit dragon qui se croit le maître de la terre. Tu m'es utile, mais... Voilà, c'est rappelle-toi que c'est moi le parent. Rappelle-toi que moi je peux te diriger vers l'amour, mais toi non. Toi tu t'as oublié. C'est ok. Voilà, couche-toi. Voilà, endors-toi. Moi je gère la maison. Hein. Et c'est ce que je fais quand je me dis à moi-même je fais de mon mieux. Quand je me dis à moi-même je mérite le meilleur. Je tranquillise mon ego, hein, parce que mon ego. Comme c'est une pensée de peur, il a un seul besoin, c'est d'être aimé. Quelqu'un qui a peur, c'est quelqu'un qui ne se sent pas aimé. Donc mon ego, c'est une partie de mon esprit qui ne se sent pas aimé. Donc je l'aime. Et là, ah bon, c'est possible? Ah, et là, il est bouche bée. L'ego, il ne sait plus comment être séparé. Ah bon, je suis rentré à la maison, super. Youpi! C'est la fin de la récré. Voilà, mais c'est vraiment comme ça, puisque l'ego est une pensée. C'est une pensée, c'est une croyance. C'est pas un être. Quand je l'assimile à un être, je lui donne en même temps le pouvoir de me contrôler. C'est une partie de moi qui est dans l'ombre et qui a besoin que j'allume la lumière, hein, pour qu'elle se repère à nouveau. Elle est complètement perdue. Et je peux avoir de la compassion aussi pour l'ego. J'ai eu cette pensée folle qui disait « je suis pas divin ». Bon, ben, je me pardonne d'avoir eu cette pensée. Et puis je ramène l'ego. Quand la pensée de séparation se calme parce que je jette plus de cailloux, ben, elle se dissout, puisque l'étang redevient plat, redevient calme. Et puis je peux aussi dire, ben, il n'y a jamais eu autre chose. L'ego disparaît parce que j'arrête de lui insuffler de l'énergie. Bon, là j'arrête parce qu'après ça va plus être une intervention brève. C'est déjà foutu, mais je me pardonne pour ça.
J'aurais voulu raconter aussi une petite histoire, ce qui m'est arrivé. C'est une amie qui est complètement embourbée dans des problèmes de succession. Et auxquels s'ajoutent des relations particulièrement difficiles avec son entourage. Et elle me demande de lui écrire, de l'aider à écrire une lettre au procureur de la République. C'était vraiment le genre de chose. Je me suis dit, c'est vraiment... Enfin, j'ai mis là, je me suis dit, on va voir ce que ça donne. J'étais pas très... J'y allais un peu à reculons. Et puis, il commence à me débiter tout un tas de choses. Écoute, essaye d'écrire une trame et puis après ça, tu me rappelles. Et bon, et en fait, j'ai passé bien une heure au téléphone à écrire la lettre. Et c'était que des choses qui, évidemment, que des pensées. Il n'y avait que de la pensée d'attaque, il n'y avait que de ça. Que de ça. Enfin, d'attaque ou de... C'était une plainte où elle expliquait toute sa vie où elle était victime. Et il fallait corriger ça et remettre ça en français et lui. Et faire en sorte que ce soit digeste pour le procureur. Je me suis dit, franchement, c'est pas du tout la tasse de thé. Mais enfin, bon. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme pensée d'amour ou des choses comme ça. Bon, ça fait rien. Et alors, j'ai terminé ce truc-là. Et puis après ça, je me suis dit, bon. Tout est neutre. Il faut bien se dire ça parce que là, je me suis dit, ça doit être dans le jeu de l'histoire de la vie parce que vraiment, c'était totalement. Enfin, il fallait vraiment objectiver ce truc-là parce que c'est. En même temps, à la fin, j'en rigolais toute seule. Voilà. Et puis, bon, je me suis dit, tout est neutre. Et voilà. Et puis, j'ai. Elle était très contente, finalement. Elle était très contente de sa lettre, qui faisait, je crois, 2-3 pages. Il y avait un solide morceau. Et puis, à la suite de ça, elle me dit, quand est-ce que tu viens me voir? Oh, j'ai dit ça. J'avais pas du tout envie d'aller la voir. Alors là, j'ai dit que j'avais pas le temps. Et là, je me suis dit, oui, là, je sais pas comment je ferais s'il fallait vraiment que j'aille la voir. Voilà.
Thank you. Moi, je veux parler de ce, que, ce qu'on a parlé tout à l'heure de, d'être un peu paumé par rapport à l'ego, au choix que, qu'on ne sait plus quoi choisir et qu'on ne sait pas. Moi, j'ai une petite technique que je veux partager avec vous, si ça peut aider ou pas. Quand j'ai l'impression qu'il y a trop d'ego qui vient, que je ne sais plus, je le sens vraiment, je pars dans tous les sens et je suis vraiment perdue. Je m'assois et je ferme les yeux et je me dis Dieu, fais ta volonté et pas la mienne. La mienne dans le sens de l'ego. Et je laisse mon âme dans tes mains. Et là, je m'imagine, ou je sens en fait, une petite lumière qui commence à s'épandre un peu dans tout le corps. Et ça, je me relaxe et ça se calme direct. Je sais pas, c'est ma technique pour éloigner, on va dire, un peu l'ego et de laisser la place au cœur. Des fois ça marche, des fois c'est un peu plus difficile, mais la plupart du temps ça aide à calmer un petit peu et à voir les choses autrement, à s'arrêter et rester au moment présent et plus laisser l'ego prendre les rangs. Voilà, et merci.
Je te remercie, Hélène, d'avoir partagé ça. Et souvent, c'est pas facile parce que quand on dit ta volonté est pas la mienne, on a fait ça dans beaucoup de vies passées. On nous a appris que finalement, faire la volonté de Dieu, eh ben, ça fait le martyr et ça fait la souffrance. Et on nous a appris l'apologie de la souffrance, c'est-à-dire que la souffrance est très bénéfique et qu'elle est nécessaire et que c'est le désir de Dieu. Et en particulier, c'est ce qu'on a fait en disant Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique pour qu'ils souffrent et que par sa souffrance, il paye et il rachète les péchés. Ça n'a aucun sens. Et quand on dit que ta volonté soit faite, maintenant on commence à comprendre que c'est une volonté d'amour qui est le bien sans opposé, qui ne demande aucun prix, aucune souffrance, aucun sacrifice. Donc la notion de martyr n'a aucun sens pour la réalité. Ça ne veut pas dire que les souffrances n'ont pas été utilisées, parce que c'est nos croyances. Et par exemple, j'ai tiré, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la leçon 248, « Quoi que ce soit qui souffre ne fait pas partie de moi ». Parce qu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est, donc ça ne fait pas partie de Dieu. Et donc, Dieu ne peut pas vouloir la souffrance de quelqu'un ou de quoi que ce soit pour payer un prix. Et c'est très pratique dans ma vie, dans notre vie, parce que quand j'ai cette notion, comme tu viens de le partager là, que ta volonté soit faite, mais quelle est cette volonté? C'est une volonté de joie, une volonté de bonheur qui ne demande aucun prix, il n'y a rien à payer. Parce que je le suis déjà. Comme Dieu est tout ce qui est, et Dieu n'est que joie, que bonheur infini. Une des leçons du cours, c'est la volonté de Dieu pour moi et le bonheur parfait. Et comme par définition, puisqu'il n'y a que Dieu, sa volonté est accomplie, donc qui je suis est bonheur parfait. Donc quand je m'adresse et que je dis que ta volonté soit faite, évidemment là, c'est là que je dis, comme tu disais, Avis tout à l'heure, je dis à l'ego, écoute, doucement, couche-toi là, parce que tu vas pas comprendre là. Parce que ça veut dire que quand je dis que ta volonté soit faite, c'est pour le bien de tout le monde. Je parle des 7 milliards que nous sommes, sans aucune exception. Et c'est pour ça que cet arrêt sur image, cette notion de « allez, j'arrête, je respire et je lâche tout », ça a un sens, parce que ça permet enfin au plan de se dérouler pour le bénéfice de tous. Et c'est ce que nous dit le courant miracle, un problème qui est résolu par le Saint-Esprit, il n'y a que des gagnants. C'est au bénéfice de tout le monde. Ça nous paraît invraisemblable parce qu'on nous a appris le contraire. On nous a appris que si on est 15 et qu'on partage une pizza en 8, il va y avoir, il va y en avoir qui ne vont pas en avoir. Donc c'est toujours limité, c'est toujours la séparation. Mais en fait, la réalité, c'est que c'est infini. La réalité, l'amour est infini. Et l'amour, c'est tout est possible maintenant. C'est ça le miracle. Ça nous est difficile parce qu'on est, on a des croyances par rapport au temps. On dit c'est impossible. Il y a un cancer, ça ne se résout pas comme ça. Non, non, il y a les processus. Et puis on nous parle de statistiques. Et sans cesse, on repart dans le passé avec les statistiques, avec tout ça. Mais on n'est pas des statistiques. C'est nous-mêmes qui créons ça. C'est pour ça que le cours va nous dire, le cours en miracle va nous dire, par exemple, je ne dépends que des lois de Dieu, pas des lois du monde, pas des lois physiques. Les lois physiques, je les ai créées, je les ai faites. Donc je peux, j'en suis libre, j'en suis affranchi. Je l'ai oublié, donc j'ai l'impression que je suis soumis aux lois du monde. Mais en fait, non. Alors on va dire, écoute, c'est bien gentil, mais tu as une voiture, bon, si tu ne mets pas d'essence, la voiture n'avance pas. Oui, c'est vrai. Mais je suis d'accord, ça ne me gêne pas. Donc c'est différent, ce n'est pas le fait de la loi du monde, parce que j'ai choisi une expérience ici humaine. C'est l'amour que je vais avoir. Alors on va me dire, mais tu vois, tu rentres dans une société, finalement, qui est menée par 100 ou 200 individus qui ont un pouvoir incroyable sur tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est vrai en apparence. Mais ce qui est important, c'est comment je réagis par rapport à ça. Et j'aime. Et je suis très bien avec ça. J'ai choisi de venir ici. J'ai choisi cette pièce de théâtre avec tous les risques, en apparence. Il n'y a pas de risque, mais une apparence de risque. C'est pour ça que Crayon, ça m'avait beaucoup interrogé en 2001. Licarol avait canalisé Crayon après les attentats du 11 septembre. C'était peut-être en 2002 d'ailleurs. Et Crayon nous disait, vous avez tous été d'accord pour les attentats du 11 septembre. Je me suis dit, quand même, c'est fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a été d'accord pour la pièce de théâtre. Et que tout ce qui se passe n'existe pas, mais c'est inventé, c'est imaginé. Et que même les souffrances apparentes des gens, les meurtres, tout ça, les viols, tout ce que vous voulez. En fait, c'est pas réel, mais ça fait partie des pièces de théâtre. On dit, mais c'est atroce ce que tu dis là. Mais oui, en apparence, oui, c'est vrai. C'est pour ça que ce n'est pas évident dans la non-dualité. Et comment je peux faire face à ça? Mais surtout en ne lâchant pas qui nous sommes. Non, mais c'est inventé, tout ça, c'est imaginé. Donc, je m'en libère maintenant, pas demain, tout de suite, là. Mais qui? Moi? Et les autres? Mais les autres, quand je me libère de ça, je libère tout le monde avec moi. C'est ce que nous explique le cours. On n'est pas guéri seul. La guérison, c'est voir que tout le monde est guéri. C'est voir que tout le monde est divin. C'est voir que tout le monde est lumière et rien d'autre. Dieu est tout ce qui est. Donc, c'est extrêmement pratique. C'est maintenant que ça se passe. Et ça ne concerne que moi. Ça ne concerne que ma vision. C'est pour ça que le seul travail que nous fassions les uns les autres, c'est un travail sur nous-mêmes. Et le pardon, c'est pas pardonner quelqu'un d'autre. Bien sûr, on va employer le mot, on va dire oui, je lui ai pardonné, etc. Mais en réalité, c'est ma vision qui change. Et l'autre n'est que lumière, il n'a rien fait. C'est ce que dit Jésus par rapport à son expérience d'il y a 2000 ans sur la croix, disant « j'avais choisi », et dans le livre que j'ai traduit de Tom Carpenter, « Dialogue sur l'éveil », on lui dit, mais il y a une question, on lui dit, mais il y a 2000 ans, qui avait choisi cette expérience? C'était le Saint-Esprit, l'Esprit, Dieu, ou c'était l'homme Jésus? Et il répond immédiatement, l'homme Jésus, bien sûr. C'est l'homme, j'avais choisi cette expérience pour montrer qu'il n'y a pas de mort, c'est tout. Mais ce n'était pas pour faire un sacrifice, c'était pour montrer que personne ne me faisait rien. Et que ce corps-là, ce n'est pas moi. Donc, ok, le corps est apparemment détruit, mais j'avais choisi la destruction du corps. Donc j'avais besoin de la pièce de théâtre, j'ai eu besoin de Pilate, du grand prêtre, de Judas, de tout ce que vous pouvez. Et tout ça, c'était moi qui, en tant que l'un, ça fait partie du jeu. Mais il n'y a que des innocents dans l'affaire. Il n'y a que qui nous sommes. Donc c'est fort. Ce n'est pas un petit travail que nous faisons ici. Ce n'est pas, des petits propos comme ça. C'est fondamental. Et d'ailleurs, si on regarde tous les écrits authentiques, tous les grands, le Tao, Bhagavad Gita, etc., la Torah, je parle à l'origine, à la source. Pas beaucoup d'interprétations, mais je parle de la source. C'est toujours la même chose. C'est Dieu et tout ce qui est. Il n'y a que la lumière. Il n'y a que la vie. Il n'y a que l'infini perfection que nous sommes tous. Il n'y a rien d'autre. Alors c'est fort, effectivement, c'est vrai que appliquer ça dans la vie, eh bien, c'est pas évident. C'est pour ça que j'avais déjà partagé une fois ici un message que j'avais reçu, ou même que je crois que Joel Goldsmith disait, la vie monastique, monastic life en anglais, c'est une vie monacale, c'est une vie d'amour, une vie de prise de conscience de la réalité. Eh bien, cette vie monastique, dans le monde à l'occidental, tel que nous le connaissons, c'est la 16 maximale. C'est pas évident. Mais pourtant, c'est ça la merveille. Et maintenant, on va plus dans des grottes, dans des cavernes, on va plus s'isoler dans des monastères. Certains le font encore, c'est très bien, c'est leur rôle. Mais on le fait maintenant partout. C'est pour ça qu'on parle tant de la caisse du supermarché. Parce que ça, c'est vraiment un excellent exemple. C'est là que ça se passe. C'est là, c'est vraiment là. C'est au volant de sa voiture, alors que c'est très difficile parce que la conduite, c'est un excellent outil de pardon. Hein, parce qu'on se fait des films sur le comportement des autres, hein, les motocyclistes, les cyclistes, etc. C'est magnifique, la conduite automobile. Pour le pardon, c'est fantastique. Et c'est là que ça se passe. Hein, c'est vraiment là. Dans ce monde occidental, dans ce monde chaotique, cette société qui s'essouffle et qui va à sa perte apparemment, mais tout va très bien. Tout va très bien parce que c'est nous qui avons créé ça, c'est le jeu, et le jeu est forcément... il va forcément vers une harmonie incroyable. C'est inévitable. Pourquoi ? Et parce qu'il n'y a que là. Le jeu est déjà fini. Le jeu ne s'est même pas produit, il est imaginé. C'est tout. Alors effectivement, on n'a pas le choix. C'est pas la peine d'aller tergiverser, d'essayer d'arranger un peu l'ego, etc. Non. L'ego, c'est une illusion. Non, on revient à la vérité. Et on reste sur ce qui est vrai. Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela se trouve la paix de Dieu. Alors c'est vrai que ce soir, on l'a beaucoup répété ici, mais c'est vraiment ça. Tout va bien, le monde va très bien. Il semble aller très mal, c'est vrai, mais tout le monde va très bien. Et quand on me dit, moi, je le fais, d'ailleurs, c'est systématique, on me dit, salut Sylvain, comment vas-tu ? Immédiatement, j'ai la pensée, mais je vais très bien. Et là, je dois dire que ce matin et hier, j'étais pas bien du tout dans mon émotionnel. Mais je disais à mes interlocuteurs, je vais très bien. Même si j'ai téléphoné une ou deux personnes pour dire, je suis pas bien en ce moment. Ça veut dire, je me sens pas bien. Mais j'ai dit, je vais très bien. Je n'ai aucun problème. Je n'en ai pas. Mais j'ai l'impression d'en avoir. C'est différent. C'est là que ça se passe. C'est vraiment ça. Je crois que la dernière fois, on a parlé de la leçon 79 et 80. La leçon 79 du cours, c'est « Montre-moi mon problème pour qu'il soit résolu. » Et le lendemain, la leçon 80, c'est « Montre-moi que mes problèmes sont résolus. » Le problème, il n'y en a qu'un seul, c'est ma croyance à la séparation. Et en fait, il est résolu puisqu'il n'y a pas de séparation. C'est vraiment ça. Et ça, je suis invité à ne pas le lâcher. À vraiment dire, comme tu viens de dire là, que ta volonté soit faite, mais je dis ça à l'amour. Je dis ça à la vie, au Saint-Esprit, à Dieu, à qui vous voulez, mais au bien sans opposer. À qui je suis, à qui nous sommes.
Par exemple, si je prends un cas concret, si. Enfin. Par exemple, en ce moment, tout à l'heure tu parlais d'exemple du cancer, et moi c'est pas un cancer, c'est des problèmes d'argent. J'ai dit vraiment des vrais problèmes d'argent. Donc c'est une, dans un certain niveau, c'est pas une, enfin un certain niveau, c'est, enfin oui, donc c'est une illusion. Et comment on peut travailler ces problématiques-là, quand c'est le corps, par exemple, une maladie ou de l'argent, là, c'est matériel, donc ça concerne le monde de l'ego. C'est... Enfin, pas encore tout pigé. Hein. Je sens bien quand je parle que je me dis que t'as pas tout pigé, mais c'est pas grave. J'assume. Mais je me dis, voilà, je... Enfin, il y a un côté de moi, en fait, qui peut en rire. Je me dis, c'est comme l'autre fois, ça m'a... Cette histoire de truie, je me suis dit, bon, ben, en fait, c'est drôle. Et du coup, ça m'a guéri vraiment complètement. Alors, je me dis, ça peut-être me faire la même chose sur l'argent. Il y a un côté qui dit, ben voilà, ben, c'est pas... Mais il y a un autre côté qui vit le drame. Enfin, qui vit le drame, j'exagère, parce que c'est pas vrai. Mais, enfin... Mais ça pourrait l'être. Enfin, ça pourrait finir par l'être. Comme quelqu'un qui va mourir, qui va... Donc dans le monde de l'ego, on vit quand même, on peut vivre des drames. Moi, je regarde tout le temps les gens dans le métro et quand je les vois et dès que j'en vois un qui pleure ou, enfin, c'est, je me dis bah tiens, la pauvre ou le pauvre, qu'est-ce qu'il vit. Enfin, je me fais des films. Enfin, c'est pas bien, je dois pas aider quand je fais ça. C'est atroce. Mais je suis en compassion en plus quand je fais ça. Hein. Là, c'est, enfin, c'est de l'amour, peut-être pas de l'amour quête, j'en sais rien, mais c'est de la compassion. C'est-à-dire, je suis là, je me dis mince, c'est un être humain et cet humain-là, il souffre une vie d'humain et je trouve que la vie d'humain, elle est dure. Donc j'ai beaucoup de compassion pour la vie humaine. Je trouve qu'elle est dure. Enfin, quand tu dis laisser de la cesse, oui, c'est de la cesse parce que c'est parce que je trouve que c'est dur, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas.
Un problème. Joel Goldsmith disait, on ne traite jamais un problème au niveau du problème. Et le problème de l'argent, c'est pas une rentrée d'argent qui le solutionne. C'est la vision qui, par rapport à l'argent qui va solutionner le problème. Et donc, évidemment, on demande à Dieu ou à l'esprit, montre-moi ta vision. En fait, je me sens pauvre, je me sens avec des problèmes d'argent, d'accord, ça, c'est pas nié. Et quelle est ta vision? Souvent, il dit, qu'est-ce que fait l'amour à ma place? L'amour, il est serein. Il dit, ma chérie, t'as aucun problème. C'est moi. Alors, c'est pas évident. Et donc, c'est ça. On demande cette vision. Hein? Et on demande cette vision. Et c'est vraiment concret. Et j'ai dit tout à l'heure, par exemple, cette question, moi, si j'ai une question d'argent, un problème d'argent, je peux dire à quelqu'un, je me sens que des problèmes d'argent, je suis mal avec ça, mais je suis riche. Je le dis vraiment. Je dis, je suis riche et pourtant je me sens mal avec des problèmes d'argent. Hein? Tu vois la différence. Et donc on accueille son émotion, on accueille sa panique, ou son ras-le-bol, ou son angoisse, enfin ce que tu veux. Hein? Bien sûr, c'est pas nier, surtout pas nier. Mais on dit maintenant, je veux voir différemment. C'est pour ça que dans le cours, et on dit, ce que nous dit le cours en miracle, c'est que de l'intérieur du système de l'ego, du système de pensée de l'ego, ce que vous avez choisi, vous pouvez pas vous en sortir seul. Il faut quelque chose à l'extérieur. Ce quelque chose à l'extérieur, c'est toi, c'est nous. Mais on l'a oublié. Alors on demande à Dieu, c'est ce que disait là tout à l'heure, que ta volonté soit faite. Seulement, on le demande à, ou bien sans opposer, on demande vraiment à Dieu et non pas à un Dieu qui va donner de l'argent. Ça n'a pas de sens. Parce que si j'attends que Dieu me donne de l'argent, comme je suis moi-même Dieu, je suis la vie, j'ai la croyance que je manque d'argent. Et donc, effectivement, Dieu dit oui, comme dit toujours la vie, Dieu dit toujours d'accord. Donc, si je dis j'ai un problème d'argent, la vie me dit oui. C'est tout. Et donc, je dis, ah, bon, c'est, ah oui, d'accord, ok. Bon, j'ai l'impression, j'ai l'expérience, ou le ressenti d'avoir un problème d'argent, d'accord, ça c'est pas nié. Mais en fait, c'est faux. Donc, je demande à l'esprit de me montrer sa vie, de me donner sa vision. Alors, ça paraît intellectuel, c'est vrai que ça paraît intellectuel, forcément, pour le dire, c'est intellectuel. Mais c'est très concret. Ça veut dire, bon, je reconnais mon angoisse, je reconnais que j'ai ce mal-être, ce malaise par rapport à l'argent. Je demande à l'esprit de me donner sa vision. Évidemment, la plupart des gens disent, donne-moi des dollars, des euros, n'importe quoi, ou je sais pas quoi, moi une maison. Bon, mais et ça marche pas. Ça marche pas, ça fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que mon âme profonde veut vraiment la vérité. Et mon âme profonde, c'est qui je suis. Et elle a fait cette expérience et elle veut vraiment, et elle ne ment pas. Et donc, elle dit non, c'est pas ce que tu veux vraiment. Ce que tu veux vraiment, c'est voir clair, c'est avoir la vraie vision. C'est voir que tu es riche. Donc on ne traite jamais un problème au niveau du problème. On traite un problème, parce que le niveau du problème, c'est la matière, c'est la forme. Hein. Même ça peut être une relation, mais c'est encore une forme, une relation. Une relation intime, une relation, je suis amoureux de telle personne, j'aimerais bien qu'elle soit avec moi, etc. Bon, on ne traite jamais un problème au niveau du problème. On traite un problème est traité à la source du problème, qui est une imagination, une fiction mentale. C'est une idée, c'est tout. Une pensée fausse, une perception fausse. Et c'est là que le problème est résolu. Comment on demande, l'esprit, je demande à Dieu, à l'esprit dit, bon, donne-moi ta vision. Je veux voir autrement. Une des premières leçons du cours, c'est, par-dessus tout, je veux voir, par-dessus tout, je veux voir les choses différemment. Avec la vision de l'esprit, avec la vision de Dieu, avec la vision de qui nous sommes.
Et puis, comme je suis esprit divin, je me fabrique des expériences qui m'aident à guérir des états, des situations. Quand je me fabrique l'expérience de manque d'argent, c'est que je rencontre la possibilité d'être en manque. Hein, je peux imaginer le manque. Et donc c'est pas dans la forme que ça se guérit, c'est pas s'il te plaît fais-moi gagner au loto, hein, c'est dans comment je me vois en manque et comment j'attire à moi des situations qui me font expérimenter le manque d'argent ou le manque d'amour, c'est très similaire, hein, ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose d'extérieur, j'ai besoin de remplir un vide à l'intérieur. Et donc, tant que j'ai pas changé ma vision, en d'autres termes, tant que je me suis pas pardonné moi-même de croire au manque à ce point que j'attire le manque dans toutes les situations de ma vie, alors je retrouve le manque pour la seule raison, la seule utilité de m'enseigner à nouveau de la possibilité de faire un autre choix que celui du manque, en face du manque. Donc pourquoi j'ai pu croire que le manque est possible? Pourquoi j'ai pu croire que je pouvais être pas en bonne santé? Pourquoi j'ai pu croire que je pouvais être vulnérable? Hein, c'est toujours la question, elle est toujours au niveau de la croyance. Et ça se traite dans l'esprit. Hein. Le cours en miracle dit une phrase qui est magnifique, la guérison est de l'esprit. Donc je ne m'occupe jamais de la forme, je m'occupe de la pensée qui a généré la forme. Qui a donné naissance à une croyance que donc je suis divin, invulnérable, puissant, toujours plein, toujours abondant, mais je m'amuse à croire autre chose. Nous sommes des dieux qui s'amusent à se croire humains, hein, donc limités. Donc je m'occupe de la pensée, je m'occupe pas de comment ça se manifeste. La pensée manifeste tout ça. Je change ma pensée, et je change la manifestation. Donc pourquoi je crois que je peux être en manque? Pourquoi je crois qu'il peut m'arriver des choses qui me rendront vulnérable. Vulnérable à tout, hein, à la maladie, vulnérable par rapport à l'attaque des autres, etc. Et quand je vois que j'ai permis ça, alors je me pardonne ça. Je fais un processus de rappel de la vérité pour moi. Hein, je demande à l'esprit de me rappeler que je suis divin, invulnérable, puissant, jamais en manque, en abondance totale, qu'il peut jamais rien m'arriver. Hein. Ça peut être simplement citer des « je suis, je suis, je suis » qui sont « je suis amour, je suis... » Voilà, dans l'abondance, des choses très simples, mais qui sont vraies. Quand je dis une chose vraie, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur ma vie. Parce que ça, je mets mon énergie avec une chose qui est réelle. Et donc forcément, ça, la pensée, c'est un système très puissant. Hein, l'intention utilise ça. Tout ce que quelqu'un disait, quand vous dites « je suis », quoi que ce soit qui est après, vous déclenchez la grande photocopieuse de l'univers. Vous appuyez sur le bouton encore, 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 encore. Alors, je suis malade. Oui, tu veux ça, d'accord, d'accord. Je suis dans l'abondance. Ok, combien d'exemplaires? Mais c'est ça la grande force copieuse. On y, avec notre intention puissante d'être séparés, on a généré ça, le soleil, les galaxies, les... Mais ouais, la photocopieuse est en marche. Hein? Et puis, elle est toujours branchée, elle est toujours prête à dire oui. Dieu ne connaît qu'un seul mot, d'accord. Tu veux expérimenter la maladie, d'accord. Tu veux expérimenter le manque d'argent, d'accord. Tu veux t'arrêter, d'accord. Hein? Dieu ne connaît que ce mot-là, d'accord. Donc, à nous de choisir quelle est la pensée qui est en accord avec Dieu, avec... ce qui est réel, hein, mais on a toujours la possibilité de faire des expériences rêvées qui prétendent autre chose. Et ça s'appelle l'ego. Voilà, il est l'heure de clôturer officiellement ce groupe, ce que je vais faire en sonnant cette cloche. Cela dit, nous sommes libres de continuer hors micro pendant un certain temps. Après la fin de l'enregistrement, et je vous dis, j'ai la guidance de vous dire, à dimanche prochain, le 17 juin, date de mon anniversaire, que je pourrai célébrer aussi avec vous, dans ce vivant-là, à une heure que je vous communiquerai, hein, dans un email que je vous ferai parvenir. Voilà, pour que ces groupes puissent être un petit peu puissent être disponibles pour un peu plus de monde, je sens que c'est juste actuellement. Voilà, dans la joie de ces prochains échanges, je termine cet enregistrement et cette session.